cet espace vide pour être le vôtre. Vous désirez faire connaître vos produits ou services? Pourquoi ne pas le louer? Nos tarifs sont très, très abordables. Contactez-nous. Radiotalbot@gmail.com. Radio Talbot est une présentation des Brasseurs illimités et de la bière Simple Malte. Mugodio, les spécialistes pour le DJ, le son et la musique depuis 1998. Mugodio.com. EB Games, le plus grand détaillant de jeux au Canada. Et par CIPC, votre référence pour votre solution informatique.
C'est le meilleur!
Comment ça va tout le monde? Bienvenue à cette autre émission de Radio Talbot, mesdames, messieurs. Demain, je vous rappelle qu'il y a relâche, car oui, je dois gagner ma vie. Je vais en faire un tour à Radio-Canada pour faire une émission de Marina Orsini, mesdames, messieurs. Je découvre un nouveau public. Je suis maintenant le gars de Marina. C'est vrai, je me promène dans les centres d'achat. Hey, c'est le gars de Marina. C'est cool, c'est un autre public carrément. Parole de public, mesdames, messieurs, vous l'aimez, vous chérissez, c'est Ian Richards. Comment tu vas?
Ça va bien, toi?
Hey, l'Irlande, toi, chose. T'es allé te balader en Irlande.
C'était très cool.
J'imagine que ça devait être le fun. T'as-tu mangé beaucoup?
Non, pas tant que ça.
Est-ce qu'on mange beaucoup c'est... de chèvres, de patates? Qu'est-ce qu'on mange?
Il y a des moutons partout, en tout cas, ça, c'est sûr. Il y a autant de moutons qu'ici. Non, finalement, il y a beaucoup de moutons, il y a beaucoup de vaches. C'est vrai. On n'a pas arrêté dans la zone route à cause de moutons.
Non.
Mais on a arrêté à cause que la largeur des routes là-bas, ça a zéro bon sens. Là, je te dis, il y a certaines routes, c'est ici, c'est considéré comme des chemins où ce qu'on pourrait même pas passer.
Des trottoirs.
Ouais, des trottoirs. Oui. Puis les limites, nous autres, on roulerait 30, eux autres, c'est marqué 80, puis il n'y a pas de trouble là-dessus. Là. Mais non, c'est très cool. Honnêtement, j'ai adoré.
J'aimerais vous présenter également notre invité de ce soir, mesdames, messieurs, un gars que je côtoie depuis, ben, que j'ai côtoyé beaucoup il y a une époque du premier doux sexe. Maintenant, il a travaillé beaucoup sur le deuxième qui s'appelle Humankind Divided. Mesdames, messieurs, son nom, c'est Jeff. Je vous appelle Jeff, mais c'est Jean-François.
C'est Jean-François.
Jean-François Dugas, mesdames, messieurs. Tu fais quoi chez Eidos Montréal?
Je suis directeur de jeu.
Quand même.
Quand même.
Quand même. Là, tantôt, on se parlait quand tu es arrivé. Tu parlais à mon fils. Tu as dit, regarde, moi, c'est moi qui fais des jeux. Je vais les présenter parce qu'il trippe sur les créateurs de jeux. Parce que je pense qu'un jour, il va faire ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais tu as dit que tu as commencé le premier doux sexe à quel âge?
J'avais 35 ans.
35 ans.
Ouais, ouais. Là, j'ai 36.
35 ans. Tu as pris une courte pause et tu as décidé donc de te lancer sur la deuxième itération. Tu as commencé ça il y a 4 ans aussi environ.
Ça fait un bout, ouais. C'est 2012, là, dans ce coin-là.
Ouais. Hey, imagine. Est-ce que vous vous êtes mis dans dans les mêmes conditions, je ne parle pas de psychotrope, là, dans les mêmes situations de création que pour le tout premier?
Ben, c'est un peu différent, parce que quand on a commencé Human Revolution, ben là, c'était un peu le début de tout ça, là, dans le sens que pour nous, c'est OK, qu'est-ce que ça veut dire pour nous Deus Ex, comment qu'on veut l'aborder, quel genre de message, de thématique qu'on veut aller chercher, quel genre de comment qu'on veut mélanger les ingrédients de jeu, etc., etc. Et ça prenait aussi beaucoup, beaucoup de naïveté, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disaient c'est impossible de faire un Deus Ex, etc. Puis ben, nous, on a été chanceux ou naïfs parce qu'on ne savait pas que c'était impossible. Fait qu'on s'est lancé dedans et on ne s'est pas trop posé de questions.
Quand tu dis que c'était impossible parce que c'était un classique, ce jeu-là,
l'original
est... Quand tu te souviens, on s'était mis à regarder le premier, Yann puis moi, puis dans notre tête, c'était tellement beau.
Ah ouais,
mais puis... quand il a joué pour de vrai, on s'est rendu compte, là, quelques années plus tard, que la beauté, c'est dans
la tête. Moi, c'était un de mes premiers jeux, tu sais, si on calcule PC, là, c'est, le premier Final Fantasy sur NES, je l'ai fait peut-être genre comme 5-6 fois. Legend of Zelda, j'ai arrêté de compter. Mais Deus Ex, c'est un des jeux sur PC que j'ai refait et que j'ai rejoué, juste parce que je découvrais des bouts d'histoire à chaque fois que je rejouais. Puis c'est toujours... C'est un des premiers que tu avais l'option, tu avais vraiment le choix. Tu sais, la première mission, je me souviens, tu es dans la Statue de la Liberté, tu viens d'avoir un acte terroriste. Puis à peu près comme genre 25 façons de faire cette mission-là.
Mais c'était vraiment striking. Là. C'était quelque chose qui marquait l'imaginaire. Parce que la plupart des jeux disent va à A, va à B, va à C.
Le tutoriel habituel, si tu veux. Là,
c'est vas-y, mon grand.
Ouais, on te lâche l'os.
Mais c'est ça qui est difficile. J'imagine quand on prend un jeu et qu'on est innocent, c'est une première licence-là. Tu te dis OK, on va faire ça, nous autres, puis ça va être meilleur. Là, tu commences à lire les forums. Puis là, tu te rends compte qu'il y a des vieux accrochés qui, eux autres, touchent pas à mon doux sexe.
Eh ouais,
parce que t'es mieux d'être bon, hein, Simon.
Ouais, c'était rock'n'roll. Puis il y en avait qui disaient c'est qui eux, on les connaît pas. Puis à un moment donné, j'avais passé une entrevue avec un journaliste. Puis je parlais un peu de l'original, justement. Puis je dis, ben, il y avait des bons moments, mais il y a des moments où c'était un peu plus lent, un peu plus tout le temps sur la même corde. Puis j'avais été cité hors contexte. Il y en a un qui voulait venir me chercher avec un bat de baseball.
Comme si tu blastais le premier. Là. Ouais, on t'aurait laissé lousse pour Invisible War, mais c'est le premier, ça. On touche non, pas à ça.
Mais les gens sont vraiment s'attachent à une licence.
Oh, oui. Absolument.
Même titre que si on plante un iPhone, on va recevoir du courrier. Si on parle un peu un croche de la Xbox, on reçoit du courrier. Puis les gens prennent ça très, très, très personnel. Surtout aussi pour Nintendo, tout ça. Il y a des gens qui se collent à des marques, à des styles. Comment vous arrivez à apaiser la colère?
C'est intéressant ce que tu dis là, puis en même temps, c'est qu'il y a de la passion, il y a de l'amour, puis c'est des gens-là qui disent qu'ils ne peuvent pas réussir, touchez pas à ma franchise que j'aime. En fait, c'est tout ce qui témoigne, c'est qu'ils ont peur, puis ils veulent juste pas monter leurs attentes pour pas être déçus. T'sais. Fait que vient un moment où que tu fais confiance à qu'est-ce que tu fais, tu fais confiance à ta démarche de créateur avec l'équipe avec qui tu travailles, puis tu fonces. Puis nous, quand on fait un jeu comme Deus Ex, que ça soit Human Revolution ou Mankind Divided, faut regarder le produit d'un angle très professionnel, c'est-à-dire regarder froidement qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas.
Ça, c'est parfois dur, j'imagine, à faire aussi, parce que quand c'est ton idée à toi, là, tu as trouvé que moi, je ferais telle affaire, telle augmentation, puis là, tu te rends compte, en regardant les statistiques de jeu ou les rapports de serveurs, que ta patente, les gens s'en servent pas, puis tu as travaillé 6 mois là-dessus, tu te dis, bon, Joël.
C'est des risques qui arrivent, mais en même temps, comme Deus Ex, comme tu parlais en entrée, Yann, c'est que tu as plein de choix, tu as plusieurs possibilités, autant dans le chemin que tu peux prendre ou les habiletés que tu peux avoir. Fait que pour moi, même s'il y a certaines habiletés, comme tu dis, Denis, qu'il y a juste 2% qui les prennent, puis 90% prennent un autre truc. Ben pour moi, ça reflète quand même le fait qu'il y a un choix, puis que certains joueurs, pour eux, pour leur profil, comment ils veulent jouer leur personnage, il y a quelque chose qui fit avec eux. Fait que même si c'est pas nécessairement populaire avec tout le monde, pour moi, c'est pas si important que ça.
Yann a été celui, je me souviens d'une soirée de démo, on en parle souvent, mais je pense que je ne sais pas si tu l'as entendu, celle-là. On est allé, on travaillait sur le making-of, puis moi, David, qui est le patron du studio, m'invite, il vient faire un tour, amène ta gang. Et bien sûr, lorsqu'on arrive à quelque part, ça prend des cadeaux. On avait amené quelques bouteilles de scotch.
De scotch, hein?
Il y en avait 4 différentes sortes, parce qu'on était 4 quand même, tu sais. Puis on aime beaucoup goûter au scotch.
Puis quand on joue à des jeux, c'est important. On vient déshydrater.
Oui, mais c'est
oui,
ça.
Oui, c'est épuisant.
Mais Yann avait pris la manette. Ça, j'ai beaucoup de respect pour toi, Yann, depuis ce temps-là. J'en ai toujours eu, mais davantage.
Mais là, ça a monté.
Ça a monté. Ouais, okay. Yann prend la manette, regarde justement le premier niveau où on était, et il dit, moi, je peux-tu passer n'importe où? Là, David dit, vas-y.
On est là avec le concepteur du premier niveau.
Oui,
aussi,
c'est ça. Il était là, puis justement, il attend, puis il regarde, t'es un petit peu nerveux, tu sais. Alors, Yann, il commence bien calmement. Nous autres, on jase. Hey, goûte à celui-là, il goûte un peu. C'est les pommes. Ah ouais, celui-là, il est plus fumé. Hey, les gars, checkez ça. Il monte. Ben. Là, il évite toute une pléthore d'ennemis en montant sur des caisses, en passant par une vitre, puis t'étais rendu loin.
J'avais comme skippé comme presque un cutscene parce que j'avais comme ouvert une vitre dans le toit en empilant des caisses. Puis quand le jeu est sorti après, il avait mis une clôture. La clôture, quand moi j'ai joué, la clôture n'était pas là. C'est qu'on a comme niaisé avec David en voulant dire. Le créateur prenait des notes. David, c'est normal ça? Il dit non, c'est pas normal. Checké, c'est qu'ils ont mis une clôture dans le jeu final. C'est qu'on niaisait. À chaque fois que mes amis jouent, ils disent hey, « c'est la clôture à Yann! »
C'est ça. Puis moi, j'avais mis ça qui m'était vu. C'est un petit, tu sais, sur les clôtures, tu as toujours une espèce de petite plaque de métal.
Ouais,
Frost.
Posé, là,
Frost. Yann Fence. Non, mais c'est super drôle. C'est j'ai fait la même chose avec Ubi pour Far Cry, le dernier, avec les espèces de petits hélicoptères. Là,
comme les monocopters, ouais, je sais pas comment ça s'appelle.
Là, il y avait des tours à prendre. Fait que je regarde ça. Je regarde l'espace entre les deux poteaux. Je regarde l'espace de mes ailes. Je rentre ça. Je prenais des tours. Clang. Les tanaires. Non, tu fais pas ça. Puis après ça, ben, on ne pouvait plus le faire. C'est plate, on a scrappé nos affaires. Non, mais Jeff, Jean-François. Non, je ne sais plus, là.
C'est compliqué.
Ce qu'on va faire, on va continuer à jaser avec toi pendant toute l'émission, mais on va faire, Yann est arrivé avec quelques nouvelles, encore une fois, pour bien sûr mettre un peu des pistes dans cette émission, puis t'avais le goût d'y faire ces nouvelles-là. Yves Online, parle-moi-en, t'es content, je pense.
Ben, que, hein, moi, je suis content parce que je ne l'ai jamais essayé.
T'as jamais essayé
puis
ça?
Je sais que Benoît Gagnon, il en a parlé souvent.
Puis là, il est gratuit.
Yves Online, non, mais ça s'en vient en novembre. Yves Online, après 13 ans, va devenir free-to-play.
Bonne affaire.
Ça fait 13 ans qu'ils roulent leur boss, par exemple, avec un modèle de souscription là, qui est mensuel, comme World of Warcraft. Mais c'est parce que EVE Online, ce qui démarque pas mal des autres, c'est que c'est un monde avec une économie indépendante de tout ce qu'on peut voir dans un MMO habituel. Il y a des pirates, il y a des marchands, il y a du monde qui n'ont jamais tué personne dans ce jeu-là, qui n'ont fait jamais combat, qui ont créé un empire galactique, mercantile. Là. C'est que dans un sens, c'est vraiment un jeu qui, quand ils font des tests pour des gens, des virus, ils font des tests sur comment ça pourrait affecter, exemple, l'économie mondiale, un changement d'argent. Ils font des tests comme ça souvent sur les serveurs de EVE Online. Okay. Parce que la communauté est ultra présente puis est impliquée dans le jeu. T'sais, eux autres, ils doivent en recevoir des lettres aujourd'hui là, de fans qui payent depuis 10 ans. Là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est comme s'il va y avoir ce qu'on appelle, il va y avoir les membres alpha puis les membres oméga. Donc, c'est qu'il y en a qui vont avoir accès à certaines choses que d'autres
ceux qui ont payé,
pas.
Finalement.
Ceux qui payent vont continuer. Exemple, pour le style de vaisseau qu'ils vont pouvoir piloter, les upgrades, les habilités qu'ils vont pouvoir avoir.
Ouais.
Et ceux qui ne payent pas, eux autres vont être plus limités. Un peu dans le style, mais là, c'est sûr que ça reste à négocier parce que ça s'en vient en novembre, mais un peu ce que World of Warcraft a fait en voulant dire tout le monde peut jouer à World of Warcraft de 0 à 10 gratuitement pour voir si vous aimez ça, puis après ça, si vous en voulez plus, payez. Ou ce que Knights of the Old Republic avait fait avec le MMO de BioWare aussi, tu avais des habilités supplémentaires si tu payais, que l'autre si tu payais pas. T'avais ce que Elder Scrolls Online a fait en dedans de 6 mois, je pense, quand c'est sorti sur PC aussi. C'est que là, je pense que les prochains MMO qui vont sortir, je pense qu'éventuellement, ils n'auront pas le choix d'aller tout de suite développer le jeu pour le style free-to-play. Puis là, après ça, s'assurer peut-être de fidéliser leurs clients pour que le monde décide d'investir après avoir joué et non demander comme vendre le jeu 75$, 15$ par mois, puis 6 mois plus tard, décider que ça va être gratuit.
Moi, je me demande s'ils font ça parce qu'ils perdent un peu de joueurs. Est-ce que c'est pour aller chercher d'autres joueurs? Toi qui en fais des jeux, penses-tu que c'est pour revamper un peu la licence?
C'est une excellente question et je vais avouer que je ne suis pas un très grand joueur de MMO. En fait, le dernier MMO que j'ai acheté, c'était Ultima Online en 98.
Oh my God!
Ça fait un bout.
Avec Lord British?
Oui, exactement.
Mais on voit ça souvent. On donne
surtout quand c'est des vieilles franchises comme ça.
De revamper,
puis redonner un vent de fraîcheur, puis donner le goût à des nouveaux joueurs qui se sont peut-être jamais adonnés d'avoir une porte d'entrée plus accessible, j'imagine. Là,
ou
c'est
ou
un monde que je connais moins bien.
Et qui était trop jeune à l'époque pour jouer à ça.
Aussi,
il y en a une gang.
Ben oui, 13 ans, là, c'est énorme.
C'est ça, avec notre âge vénérable, on a joué à tout ça. Mais à un moment donné, c'est qu'on oublie qu'il y a une génération qui pose derrière, qui était trop jeune pour jouer à ces titres-là, qui maintenant ont l'âge et peuvent découvrir des classiques. Mais Yann, est-ce que ça va te donner le goût de l'essayer plus?
Moi, je vais l'essayer, juste parce que je veux voir c'est quoi. Mais ça a l'air d'un jeu, je pense pour ça qu'ils font ça avec le mode Omega, c'est que tu n'auras pas accès à tout. Pour, là, je cherche le terme francophone, mais « overwhelmed », c'est comme...
être débordé de joie.
Débordé tout de suite en partant. Parce que c'est pas un jeu où, genre, tu vas te promener, tu te fais un paladin, puis OK, je vais fesser sur le monde avec mon marteau.
Intimidant.
C'est ça, pour que le monde décide, puis après, mettons, le tutoriel qui dure 1h30, il dit « Non, c'est ben trop compliqué, j'embarque pas là-dedans. » C'est que je pense que c'est pour ça qu'ils vont limiter tes options au début, puis tranquillement, ça va se développer. Pour pas que c'est ça, que même si moi... Je suis habitué de jouer à des jeux vidéo, que j'embarque pas dans un jeu qui roule depuis 13 ans. Puis là, dire, OK, je fais quoi? Tout le monde est plus fort que moi. Tout le monde a des stations spatiales. Le gars, il a un escorte de 20 fighters. Je peux pas rien faire. C'est que je pense que c'est ça qui va se passer. Mais encore une fois, ils sont très vagues. Ils l'ont juste annoncé là. Ils ont dit c'est pour novembre. Puis plus de détails vont sortir bientôt.
Jeff, t'allais dire quelque chose?
Non, ben en fait, ce que je m'en allais dire, c'est que souvent avec les jeux online, que ce soit multiplayer ou MMO comme ça, c'est que quand ça fait longtemps que ça roule, t'es le petit nouveau justement qui embarque, puis voir tout ce monde-là.
C'est intimidant.
Tu te sens laissé derrière, puis il n'y a rien qui te rattache qui te fait t'accrocher et dire je vais persévérer, parce que les autres, ça fait 10 ans qu'ils buildent leur affaire.
Mais ça fait penser quand on jouait Red Dead Redemption. Okay? Les gens avaient le jeu, commençaient à jouer, ceux qui avaient les plus vieux joueurs. Nous, on commençait avec un âne. Dès qu'on apparaissait, bang, on se faisait tuer tout de suite. Parce qu'on n'avait pas...
Il y en a qui ne joueront jamais au jeu single. Ils vont s'en aller en multi tout de suite pour pouvoir dire « je torche tout le monde ».
Ah oui, puis ils jouent 20 heures par jour, puis ils deviennent des bros.
Donc, dans EVE Online, quand tu arrives avec ta chaloupe galactique, puis tu arrives devant...
tu arrives à un battle cruiser là, avec un escorte, et là, « OK, donne-moi ton stock ». Le gars, il rit, il paye sur un bouton, genre, puis tu exploses.
C'est une vraie retraite.
Une petite pop de fumée, de spatiale. Pouf!
Je m'ouvre une ferme.
C'est ça. Donc, on va suivre ça de près, cette évolution-là. J'ai hâte de voir si.
Je vais pouvoir en parler novembre-décembre parce que je vais l'essayer, c'est sûr.
C'est sûr, c'est gratuit.
Oui.
Parle-moi un peu de. Ça, c'est mon jeu. Ça, j'ai hâte. Ils ont revampé l'image. En fait, ils ont rematricé un jeu qu'on a beaucoup aimé, tous les deux, System Shock.
Oui. Puis là, le 3 a été confirmé en 2015. Et là, la compagnie a officiellement annoncé aujourd'hui que la production vient de commencer avec le dev team. Et c'est spécial que tu es là aussi aujourd'hui parce qu'on parlait de Deus Ex. Et un développeur qui a travaillé sur la série System Shock a travaillé sur Deus Ex, qui est Warren Spector, qui prend le contrôle de l'équipe. C'est que, et la personne qui a fait la voix de Shodan, qui est notre AI meurtrière préférée, en tout cas qui est la mienne, là, même plus que dans Space Odyssey.
T'aimes pas Cortana?
Ben Cortana, elle est pas vraiment meurtrière. C'est ça l'affaire. Elle est cool, Marc Cortana. Okay. Et peut-être que je mettrais des pantalons, là, mais ça, c'est moi.
Siri, non?
Siri non plus. On a de la misère. Je te dirais qu'on a bien de la misère à s'entendre, moi, puis Siri.
Pouvez-vous répéter?
Ça marche pas, là. C'est pas une histoire d'amour, moi, puis elle. Je peux te le dire tout de suite. Ben,
System Shock avec Warren, ça risque
System
de prendre
System Shock, coche, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis on en parle, puis c'est un jeu que si vous suivez Radio Talbot depuis longtemps, vous savez que System Shock 2, pour moi, est un des meilleurs jeux PC dans le temps que j'ai joué. Où est-ce que j'avais vraiment la chienne. Je jouais, puis des fois j'arrêtais, puis je me disais, OK, là, je suis juste plus capable. Je sais pas, les voix, les corridors, les bruits. C'est un des jeux, puis tu sais, Warren Spector a travaillé sur Deus Ex, Thief, a travaillé sur System Shock. Tu vois que le gars, il connaît son affaire quand c'est le temps de développer un environnement qui est intégral au jeu, qui donne une expérience que souvent, encore une fois, le monde qui me connaisse puis qui écoute, qui ont écouté Monsieur Net puis Radio Tabou, vous savez qu'une de mes licences préférées de From Software, c'est la Souls series, là, Dark Souls, Demon's Souls. Et je pense que ça, c'est tiré aussi autant que le jeu, c'est l'atmosphère qui vient compléter ton histoire. T'sais, l'atmosphère et le monde devient presque un élément essentiel. T'sais, c'est un personnage presque dans le jeu. Puis autant dans Thief que dans System Shock, que dans Deus Ex, c'est vrai parce que c'est le style de jeu qui ressort, ça. Tu sais, si tu fais pas partie, si tu crois pas à l'environnement qui est là, si l'environnement t'affecte pas en aucun sens, tu perds, je pense, un élément du jeu.
Ben, l'environnement, tout comme le son, pour moi, c'est des personnages. C'est ce qui fait. Je jouais à Outlast, le prochain qui s'en vient, la gang de malades, ils m'ont fait peur qu'à le tard. Et même, j'étais en plein dedans. J'étais à Toronto, les écouteurs sur la tête. Je faisais des steps, j'étais tout trempé. En tout cas. Mais la musique vient comme ponctuer des moments où tu penses qu'il va y avoir quelque chose, il n'y a rien qui se passe. La musique, c'est un personnage dans le jeu.
Je pense que dans tous les jeux qui ont de l'atmosphère, de l'ambiance, qui a beaucoup de narration, la musique fait 50% du travail. Ça vient remplir l'espace.
Exact.
Des fois, tu as tes scènes, la musique n'est pas là. Tu dis, c'est bien, ça marche bien, mais il manque de quoi. Puis aussitôt que la musique arrive, là, ça prend une autre dimension complètement.
Pas Deus Ex, c'est la même équipe qui fait la musique, le monsieur avec la barbe, là, avec les cheveux longs.
Steve Chekhov.
Oui, est-ce que c'est Steve?
Oui, c'est encore Steve.
On reconnaît sa touche, d'ailleurs.
Oui, oui.
Et puis,
il travaille encore avec Michael McCann.
Michael,
oui. Puis là, tu as, comment il s'appelle, Sacha Dixian, qui est venu se rajouter à l'équipe pour compléter. Ouais.
Michael, excellent musicien, mais diantre qui... he's not a people person. c'est un gars qui est super timide.
C'est un homme très timide.
Il est
très
timide, mais diantre qui fait de la bonne musique.
Et c'est un gentil monsieur.
Il est fin. Il est super gentil. J'avais fait une entrevue avec lui, puis il me dit, avant de commencer, excuse-moi le grand, mais j'haïs ça. Toi, t'es bien fin, mais j'haïs ça. J'aime pas ça, faire ça. J'aime pas ça. Et il commençait à shaker, puis on n'était même pas en entrevue. Finalement, on a caché la caméra un peu, puis on a fait l'entrevue, puis ça n'en est même pas rendu compte.
Ça s'est bien passé.
Ça a bien été. Mais sa musique, par contre, il parle avec sa musique, puis c'est avec ça qu'il s'exprime. Ça fait un job en maudit. On parlait de Warren Spector tantôt. Est-ce que tu as eu la chance de le rencontrer, toi?
Je l'ai rencontré à quelques reprises, surtout quand on travaillait sur Human Revolution et tout ça. Ça a été des courtes rencontres. Ouais. On n'a pas été en profondeur à discuter.
Tu n'as pas pris de scotch avec?
Non, j'ai pas pris de scotch avec, mais c'était quand même spécial de le voir, avoir le contrôleur jouer notre version de Deus Ex, puis c'est le père, là. T'es comme... bon, j'espère qu'on va avoir une bonne note, on se fera pas taper ses fesses.
Mais lui, ce qu'il partage, c'est quand quelqu'un fait ça comme ça, excuse-moi de t'interrompre, mais est-ce qu'il partage comme sa vision complète? Dire, est-ce que moi, quand j'ai créé Deus Ex, exemple, je voulais parler de la corruption des années 80, mettons, de la police, tu sais, des choses comme ça, ou c'est juste genre, voici votre interprétation de ce que moi j'ai créé.
C'est très casual et tout ça, son approche, puis il n'essaye pas non plus de nous dire si, si c'est ça. C'est quand même, il est très réservé, puis il est très respectueux, puis il va jouer, il va passer une couple de commentaires, mais c'est pas, il ne viendra pas essayer d'être démagogue ou okay. d'arriver
condescendant.
Avec,
non,
du tout. Il est très, très respectueux. Puis en même temps, pour nous, quand on est embarqué sur la franchise, il y a quasiment 10 ans, c'était important qu'on se l'approprie, c'est-à-dire qu'on ait notre propre version de ça, notre propre identité, les choses que nous, on voulait parler, pas essayer d'imiter le créateur original.
D'être une pâle copie, finalement.
Exactement, parce que le monsieur, c'est le monsieur, puis moi, je suis moi, puis l'équipe qu'on est, c'est une autre équipe que l'équipe originale. Donc, fallait trouver notre identité là-dedans, puis amener notre touche. Puis si on avait eu la conviction qu'on pouvait rien amener d'intéressant, on l'aurait tout simplement pas fait.
Est-ce que vous aviez certaines restrictions, là, je retourne à Human Revolution, de dire, OK, ça, exemple, tout ce qui est Denton, on n'a pas le droit de toucher à ça. Tout ce qui est WHMO, WHO, on n'a pas le droit de toucher à ça. Parce que là, vous ne voulez pas, c'est plate pour vous autres dans un sens, parce que vous avez fait des prequels, mais le temps avance. T'sais, les années avancent, qui se rapprochent pas mal à l'année du premier. C'est pas comme s'il vous reste 30 ou 40 ans là, à jouer. Là,
Non, mais on pourrait staller, on pourrait faire une histoire qui se passe en janvier, un autre en février.
Okay, ouais, c'est ça, commencer à dire. OK, là, ton boss crie après parce qu'il dit, gars, j'ai un deadline. Puis t'as jusqu'à mardi pour finir la case.
mais
tu comprends ce que je veux dire par le timeline, exemple, de Deus Ex?
Pour faire les Deus Ex, on a eu carte blanche. Puis deuxièmement, nous, on disait, en allant qu'un prequel, ça allait aussi dans notre volonté de vouloir remettre Deus Ex dans un monde qui est beaucoup plus proche du nôtre, surtout quand tu penses à Invisible War qui se passait en 2072, quelque chose comme ça. Et c'était un peu loin et tout. Puis nous, on voulait ramener ça à une réalité qui est pas exactement la nôtre, mais à laquelle on peut se rattacher. Fait qu'aller dans des prequels, ça faisait notre affaire. Puis bon, on a commencé en 2027, le nouveau est en 2029. Puis si jamais on en fait d'autres, ça peut être encore 2029, ça peut être 30, 31. On pourrait revenir dans le temps qu'un autre personnage, peu importe. Là, t'sais. Fait que pour moi, il n'y a pas nécessairement de limite créative à ce niveau-là. Non, c'est très, très, très libre.
Les studios vous ont laissé là.
Oui, ils ont fait carte blanche. La question que j'avais posée aussi à M. Hotkin, Cliff Hotkin, qui a travaillé chez Ubi, qui travaille partout, j'avais dit, penses-tu qu'un jour, on préfère mourir, dans le temps, on parlait de comment il s'appelle, Splinter Cell?
Sam Fisher.
Est-ce que Sam pourrait mourir un jour? Je te pose la même question. Est-ce que ton héros pourrait mourir dans ton jeu éventuellement?
Tout est possible.
Vous laissez cette latitude sans problème.
Puis non seulement on se laisse cette latitude-là, originalement, quand on développait Human Revolution, pour nous, Adam Jensen, c'était fini après Human Revolution.
OK. Okay.
Il n'y avait pas d'Adam Jensen.
Donc, tu le vends pour les pièces.
C'est ça.
Il y a des bonnes pièces.
Il y a de l'argent à faire là.
Il y a bien des aftermarket parts.
Ouais, regarde, on continue à parler. Notre invité ce soir, si vous venez de vous joindre à nous, c'est M. Dugas, Jean-François, qui est directeur créatif.
Ou game director. Game director chez
Eidos
Montréal.
Moi, je vais juste faire, un invité, mais je vais au moins vous lancer des fleurs pour une chose. Souvent dans les jeux, puis je vais prendre la série God of War comme exemple, c'est un running blag du fait que Kratos finit le jeu, puis il est genre, tu sais, trois fois plus fort que Zeus, puis ainsi de suite. Puis là, oups, le jeu commence, tombe en enfer, perd tous ses pouvoirs, puis on recommence.
Ouais.
J'aime beaucoup l'approche que vous aviez pris pour justifier la raison pourquoi qu'Adam Jensen n'est pas le kick-ass qui était dans Human Revolution. Je trouve que vous l'avez très bien intégré au scénario. La façon qu'on joue. Ouais. Tu sais, quand on joue les premiers niveaux, je suis comme, tabarnouche, ça va donc être facile, ce jeu-là. Tu sais, je m'attendais pas à. Tu sais, je me dis qu'il va arriver quelque chose, c'est sûr, mais je m'attendais pas nécessairement à ça.
Okay.
Puis je trouve que ça, est-ce que ça prend du temps à développer pour dire, pour pas sentir, parce qu'on le sait, tu sais, on sait que quand vous avez développé le Mankind Divided, vous assumez pas automatiquement que tout le monde a joué.
Non.
Puis vous n'avez pas le choix. Vous pouvez pas faire un sequel puis dire, ben là, juste too bad, vous avez une série que j'aime beaucoup, exemple, comme dans Mass Effect. Tu as toujours le choix, tu sais, qui te fait comme un recap.
Exact.
Mais c'est sûr qu'ils vont donner des petits bonbons à ceux qui ont joué en voulant dire, ben tiens, toi, tu as joué, tu es fidèle, voilà ça. Mais un jeu comme ça, tu sais, puis je me souviens au début, ça me disait, tu veux-tu regarder une vidéo de 12 minutes qui te résume, tu sais, le premier jeu? Même j'avais joué, je dis, ben oui, je vais me remettre dedans, puis ainsi de suite. Mais le fait que vous avez expliqué pourquoi, mettons, il perd ses pouvoirs, ça, là, en tant que équipe de développement, c'est sûr que vous, en tant que joueur aussi, vous vous dites, « Hey, ça me fait suer, moi, quand je commence un deuxième jeu puis je recommence à zéro. » Ça devait être un meeting cool à avoir, de dire, « Comment on peut faire pour y enlever tout ce qu'il y a eu mais rendre ça comme crédible pour notre histoire.
Pas un meeting. Des itérations.
J'imagine, quand vous êtes arrivé au Green Light, l'espèce de meeting où tout le monde, où l'équipe de développement présente ses idées à ceux qui ont le cash. Là, il va se passer ça, il va perdre ses pouvoirs, mais ça a été quoi la réaction? Ils ont-tu dit are you kidding me?
Ben, il y a eu certaines réactions. OK, ouais, comment vous allez faire ça? Comment ça va pas débalancer le jeu? Comment ça va, vous allez éviter que ça devienne lourd?
Ouais.
Parce que là, je reste vague pour pas.
Pour ceux qui n'ont pas joué encore,
c'est
là,
ça,
mais
pour pas dévoiler. Mais,
ça se passe quand même, on va dire, dans la première heure et demie du jeu.
Exactement.
Que, tu sais, c'est quand même pas.
On va peut-être le voir ce soir.
C'est ça.
Peut-être.
On va peut-être le voir.
Si tu joues vite. Mais. Non, c'est ça. C'est des fois, t'expliques des trucs, tu le vois, tu sais comment que ça va se dérouler. Ou en tout cas, du moins, dans ta tête, ça fait bien du sens. Après ça, tu peux te tromper un coup que c'est mis en œuvre. Mais des fois, quand tu l'expliques aux gens, tu vois que t'as le regard Spider-Pig d'Homer Simpson qui leur passe dans les yeux. C'est ça. Fait que, écoute, faut que tu crois ton truc. Faut que tu sois capable de le défendre. Faut que tu sois capable de le vendre. Puis quand tu t'en vas là, aussitôt que tu te fais challenger, puis tu commences à t'asseoir dans le fond de ton fauteuil, puis que t'es pas confiant, ben peut-être que ça veut dire que ton idée est pas si solide que ça. Fait que,
j'avais vu David en Fossi faire la présentation de Deus Ex. Qui l'a fait celle-là, c'est-tu toi?
J'en ai fait quelques-unes.
C'est énervant, tabarnouche. Moi, j'étais nerveux pour vous autres, les gars.
C'est stressant. Ouais. Même si on connaît les gens.
Ouais.
Ça reste stressant parce que, en tout cas, moi, comment j'approche ça, c'est que je suis tout le temps professionnel, puis je veux tout le temps bien faire, puis je prends jamais pour acquis que qu'est-ce que j'apporte, c'est intéressant.
Mm-hmm.
Fait que j'approche tout le temps ça avec humilité, puis beaucoup, beaucoup de stress, puis justement, essayer d'embarquer les gens, même s'il y en a qui sont déjà convaincus, toujours les embarquer, je pense, c'est super important. Fait que moi, j'approche ça comme si c'était la première fois que je ne les connaissais pas, même si ça fait longtemps qu'on travaille ensemble.
Puis ce que j'avais beaucoup apprécié de ces présentations-là, c'était le « no bullshit policy ». Tu sais, regarde, ce jeu-là, il y a une question, excuse-moi, je n'ai pas la réponse, mais je vais te revenir avec plus tard. Puis voici nos points faibles.
Ouais.
Quand tu arrives dans un meeting et tu dis au gars, voici, regarde, on n'est pas bon là, on n'est pas bon là, on n'est pas bon là, mais là, on est bon là, on est bon là, on est extrêmement bon là.
Ouais.
Ben, c'est comment arriver à trouver cette façon de faire-là sans... parce que quand tu veux vendre un produit, tout est beau. Tu regardes les vendeurs de maisons, c'est la meilleure maison, tu peux acheter le meilleur char. Donner 2-3 coups de pied sur les tailleurs, c'est le meilleur char que tu vas avoir, man. Puis tu vois le genre, mais là, vous n'êtes pas des vendeurs de char.
On n'est pas des vendeurs de char. Puis moi, personnellement, dans le type de personnalité que j'ai, je préfère m'amener avec ce que je pense qui est fort, comme tu dis, puis arriver, ben ça, c'est peut-être pas aussi fort, c'est peut-être pas aussi intéressant.
On a besoin de temps de plus.
Exact. Mais c'est honnête, puis ça ouvre les discussions sur les bonnes choses. Puis je parle de moi, mais David est comme ça. C'est... Jonathan est comme ça, les gens avec qui je travaille, on est tous un peu sous le même moule dans ce sens-là. Fait que ça fait qu'au lieu de tourner en rond pendant 2 heures, l'éléphant rose qui est dans la pièce puis personne n'en parle, on l'attaque d'emblée. Fait que comme ça, on sauve du temps puis on se donne au moins une chance de prendre les vraies décisions. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se prendre dans les 5 minutes qui s'en viennent,
non.
Mais au moins, les problématiques sont sur la table puis on sait qu'est-ce qu'on a, sur quoi on a à travailler.
Donnez-moi 6 mois de plus, tant de millions de plus, vous avez un 10 sur 10. Pas de même, ça marche, malheureusement.
Non, malheureusement.
Hey, on va continuer notre conversation avec Jean-François Dugas. Avant, on va parler de ces séries de classiques de jeux chez Sierra qui me rappellent, je dois l'avouer, mon enfance. T'es jeune quand je commence à jouer à ça.
La mienne aussi, là, des fois, tu sais, c'est... Mais ce qui est cool avec ça, avec ces jeux-là qui sortent, on va tout le dire, sur Steam, cette semaine, ils ont sorti les classiques de Sierra qu'on peut acheter.
Sierra,
quand je parle
man.
De classiques de Sierra, là, je parle de Police Quest.
Te souviens-tu du logo?
Ben oui, je me souviens du logo.
Comme t'es content.
Je jouais à ça. Gabriel Knight, qui était une de mes
Attends
séries
un peu, on va montrer des images.
C'est ma série favorite.
Gabriel Knight?
Ouais, j'adore Gabriel
Knight. Le deuxième, c'était les loups-garous. Hein, je pense en Nouvelle-Orléans, il allait comme en Europe. Il était comme héritier en Allemagne.
Ouais.
Le premier, c'était du voudou, je pense, en Nouvelle-Orléans. Ouais, j'ai joué à ça, c'était fou.
Gabriel Knight, Sins of the Father.
Ça, c'est le premier, mais tu peux acheter des bundles.
Regarde ça, c'était beau, les graphismes étaient incroyables.
Oui, mais c'était dans le temps, là. C'était, dans le temps, on ne te prenait pas par la main.
Non,
je sais que là, j'ai l'air d'un puriste quand je dis ça, là, mais T'étais pris, puis il n'y avait pas d'Internet pour te débloquer. Tu fallais juste en parler à tes chums, puis un moment donné, tu disais j'arrête de jouer, puis une semaine plus tard, tu découvrais quoi faire. C'était, tu sais, toutes ces séries-là, le Police Quest, Quest for Glory, la collection au complet, ça, j'ai-tu passé du temps, cette série-là. Phantasmagoria, un des premiers jeux qui se faisait comme avec des acteurs, parce qu'à un moment donné, le futur du jeu vidéo, c'était un mix d'acteurs et je pense à la série Wing Commander.
J'essaie de te suivre.
Phantasmagoria, c'était excellent. Là, dans le style avec des
maisons d'horreur.
Ouais, j'aurais bien aimé ça.
Ça, c'était Quest for Glory 1 à 5.
Quest for Glory, j'ai joué à ça. Là. Oh boy, c'est des classiques.
Puis combien ils coûtent, ces jeux-là?
Ben, c'est ça, c'est gars, clique, mettons, sur Sins of the Father, Gabriel Knight. Je pense qu'il est comme 7$.
7$.
Pour l'anecdote, Sins of the Father, c'était le titre que je poussais initialement pour Human Revolution.
C'est vrai?
Ouais, puis ça fitait aussi avec le concept. Puis c'était un hommage pour
Gabriel Knight.
Puis Mary, la lead narrative, et moi, on a un désaccord sur comment Adam Jensen est devenu Adam Jensen, son nom.
Okay.
Jensen, pour elle, c'était, je ne me rappelle plus c'était quoi sa justification, mais on avait une série de noms de famille. Puis j'avais mis Jensen là-dedans parce que la femme qui a créé les Gabriel Knight, je ne me rappelle plus de son premier nom, mais Madame Jensen. Puis justement, c'était pour rendre hommage à la créatrice.
Un clin d'œil.
Ah, voilà. Ben ouais.
D'ailleurs, tu parles de Marie de Marle, qui... écoute, c'est le résumé, là, le 12 minutes, là,
oui.
De synthétiser ça en 12 minutes, je ne sais pas comment vous avez fait ça, mais c'est parce que c'est riche comme histoire.
C'est du travail.
C'est du travail en tabarnouche, puis tu ne veux pas trop en mettre, tu ne veux pas trop en enlever, mais les personnages issus de son imagination à cette dame, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est elle qui a travaillé sur les miss dans le temps, il faut le dire aussi.
Exactement. Oui, elle a beaucoup d'aptitudes, puis elle aime tellement les histoires, elle aime tellement développer les personnages. Fait que pour elle, quand elle embarque là-dedans, elle tombe en amour.
Je ne serais pas un bon éditeur là-dessus. Pourquoi? Parce que si tu viendrais me voir et tu me dirais, OK, là, il faut que tu coupes, mettons, telle affaire.
Non, on ne peut pas.
Mais non, c'est parce que c'est intégral ou le clin d'œil, ça va être cool pour telle place.
Mais Mary est super bonne là-dessus, puis justement, sur Mankind Divided, à un moment donné, dans Prague, là, après le début du jeu, il y avait un briefer où ce que ton patron Jim Miller te contacte.
Ouais.
Puis le briefer était super long. Puis là, j'étais là, non, Mary, ça marche pas, c'est long. Puis ouais, mais il faut raconter l'histoire, ça peut pas juste être sec. Là, on se chicane un peu. On a travaillé pour trois lignes de texte, on a travaillé pendant, je dis, 1h30, 2h à se pogner la tête, à changer un mot là, jusqu'à temps que c'est devenu juste une ligne. Puis ça racontait la personnalité des personnages, ça racontait l'histoire, puis ça te donnait ton objectif. Mais pour arriver à ça, c'est
ça
long.
Dit de la négociation.
Ouais,
là.
Ouais. Puis après ça, ben, quand on est arrivé, ouais, je pense qu'on l'a. On l'a. Puis là, on s'est comme réconcilié.
Mais pour avoir fait votre making-of le premier, je me souviens de... Écoute, il y avait une histoire de poignée de porte à un moment donné, là, qui avait... tu sais, parce que la personne qui travaille sur...
Les lockers avec les portes.
Oui, oui, c'est ça. Ça avait suscité beaucoup d'intérêt de la part de certaines personnes et du désintérêt de d'autres personnes qui disaient « Tu prends tout le temps là-dessus, on ne peut pas mettre des ressources là-dessus. Oui, mais ça va être du beau! »
C'est l'enfer des fois.
Vous êtes tous des artistes, puis quand vous pognez, ça doit être le fun.
Ah, c'est tout un party. Il ne faut pas qu'il y ait d'alcool, il faut qu'on soit sobre.
Oh,
il y a trop d'émotions.
Non, c'est ça.
Mais ça pour dire que Sierra aussi, ce que je m'allais dire, mais ils ont dit sur le chat aussi, les séries sont aussi disponibles sur goodoldgames.com, c'est pour ceux qui sont intéressés. Ceux qu'eux autres, des fois, ils font des mises à jour que peut-être Steam est moins apte à vouloir livrer. Mais l'avantage, des fois, sur Steam, c'est qu'ils font des bundles, ils font des ventes. C'est que si vous n'êtes pas intéressé de jouer tout de suite, attendez une vente, mettez les flags et les, attendez une vente. Mais je vous le dis, là, même aujourd'hui, juste pour l'histoire, on est deux à vous le dire, jouer à Gabriel Knight, juste pour l'histoire, ça vaut la peine.
Ouais.
Okay. C'est un excellent jeu.
Si vous avez un iPad, c'est possible de se le procurer également sur iPad. Il y a plusieurs de ces titres-là qui sont... Il y a Lizard Suit Larry, Police Quest, Space Quest.
Sont tous rendus sur iPad.
Ah, oui,
parce que
oui.
Moi, j'ai pogné Gabriel Knight sur
iPad.
Mais je savais pas que les autres étaient rendus.
Parce que je me souviens que Lizard Suit Larry jouait sur des disquettes 5 pouces et quart au secondaire avec mon ami. Il fallait répondre des questions pour prouver qu'on avait 18 ans.
Ouais.
Genre, quel est le 12e président des États-Unis, des affaires comme ça, mais
encore
une fois, il
n'y
a pas d'Internet dans le temps pour répondre. Et je me souviens que le 2e Leisure Suit Larry, c'était vraiment du copy protection, les amis. Là, maintenant, ils nous donnent des codes digitales, là, mais pour rentrer, tu avais le manuel d'instruction du jeu, qui est à peu près comme un livre et pen même, avec des histoires qu'ils présentaient. Et pour à chaque, je te disais, comme mettons, à chaque 5 heures de jeu, il y avait une question qui popait. Puis là, il disait, OK, tu vas aller dans la première page, premier mot, deuxième lettre. Quatrième page, premier paragraphe, dixième mot, cinquième lettre. Puis là, ça faisait un mot. Là, tu tapais le mot, puis là, tu pouvais continuer à jouer. Là.
Est-ce que ce livre-là...
Aujourd'hui, faire ça, là, comme copy protection, ouais. Là, le monde met feu à Internet. Mais... Là, ça capote. Là, mais là, tu me perds, ça me prend du temps pour rien. Puis, mais c'était le même dans
la
le
photocopie
temps.
De ce livre-là a circulé
fait,
beaucoup,
sûrement, beaucoup
à l'école, à Cavalier-Lassalle.
En Word de 3 gigs, là, genre, dans
ouais,
le temps.
Oui, oui, c'était énorme. C'était énorme.
Mais je me souviens de ça.
Écoute, non, c'était le bon temps. Tu vois, oui. L'Internet n'existait pas. Il y avait des affaires qui s'appelaient des bibliothèques dans le temps, mais il fallait y aller. C'était compliqué. Ah
ouais.
Il fallait pas parler. Ouais.
Microfilm,
t'en souviens-tu?
Ouais, ouais.
Ou tu appelais Sierra Online aussi pour les astuces pour
oui.
Les jeux
oui.
Que
oui.
Chargeais genre comme 75 cents la minute ou quelque chose. Oui, c'est vrai. Ou tu achetais genre comme des PC Mag ou des PC
oui.
Gamer. Là,
ouais.
Puis tu avais comme genre le walkthrough pour
oui.
Les premiers 15 ou 20 minutes de jeu.
Ben, oui, ben,
il y avait
ben.
Ça, mais je me souviens du Syria. Ah, hey, t'imagines, tu sais, c'était ta job dans le temps. Tu réponds au monde, puis ouais, mais là, je suis pris là, dans telle affaire, puis
un
la
instant.
Porte s'ouvre pas. Un instant, monsieur.
Et à quel niveau est-ce que tu vois un meuble rouge? Oui. Tasse le meuble. Une porte derrière. You're my savior!
Hey, tu dis ça, là, mais je sais pas si c'est. Je pense que c'était Infogrames qui faisait ça dans le temps.
Ouais.
Le premier, Alone in the Dark.
Ouais.
Tu commences dans le attic, là. Moi, je m'étais rendu jusqu'à la fin du jeu, puis il m'avait manqué une pièce de l'amulette. J'avais pas pu finir le jeu, puis j'étais en tabarnak. Il a fallu que je recommence le jeu au complet.
T'es en tabarouette,
là.
Tu le dis.
En tabarouette, ouais, excusez. Mais dans ce temps-là, il te laissait avancer dans le jeu, même si t'avais pas tout. Là.
C'était le syndrome Dragon's Lair.
C'était
comme un dédain.
Ouais.
Puis...
C'est ça. Fini, là. Remets 25 cents, puis recommence.
C'est ça.
Là.
Non, mais écoute, puis où il y avait les bugs, dans ce temps-là, les bugs suivaient avec le jeu.
Mm-hmm.
Interstate
il n'y a pas de mise à jour. Là.
Interstate 76. OK, j'avais amené mon petit PC. On était à Madagascar pour couvrir les jeux de la francophonie. Et le soir, c'était plate. Fait qu'on jouait à des jeux. Et dans ce maudit jeu-là, ceux qui ont joué, l'autodrome, à un moment donné, il y a une course. Puis tu faisais deux tours, puis après le deuxième tour, ça plantait. J'ai-tu essayé de passer ce bug-là? J'ai-tu essayé, puis t'es pas capable d'avancer. Puis moi, j'étais pogné là. Pas de mise à jour. Ça, ça serait un jeu à refaire, d'ailleurs. Interstate 76.
Je pense qu'elle a appris, puis là, ouais. Je fais pas genre comme old school, contre nouveau, ainsi de suite, mais je pense que jouer old school un peu comme ça, ça nous a rendu un peu plus persévérant à pas tout de suite aller chercher, mettons, sur Internet ou regarder une vidéo sur YouTube d'un gars qui le fait ou ensuite. Je me souviens dans le temps où ce que les mix acteurs, un peu Phantasmagoria,
Wing
Commander 4, c'était un peu comme ça avec Malcolm McDowell
puis
Mark Hamill qui jouait dans le 4.
Ouais.
Moi, j'avais joué à un des meilleurs jeux. Allez voir des vidéos de ça si vous pouvez. Là, ça s'appelait Realms of the Haunting. Là. Tu rentrais comme dans un manoir, puis tu allais comme dans une autre dimension. Ça faisait très Clive Barker là, comme ambiance. Là.
Comme Undying.
Ouais, un peu comme Undying.
Ouais, Undying,
mais
ouais,
c'était écœurant. Là. Puis je me souviens, ce jeu-là, je crevais toujours à même place, toujours à même place. Puis je dois avoir passé comme un mois là-dessus. Mais quand je l'ai passé, là, le sentiment de satisfaction qui m'a comme rempli, là, c'était comme si je venais de trouver là, Dieu. Là. Tu sais, genre, je me sentais... Là... Non, non, mais tout ça pour dire que ça m'a vraiment rendu un point tel que souvent le monde dit « Mais pourquoi tu joues à des jeux plus difficiles? Pourquoi tu joues à ça? » Parce que je veux retrouver ce sentiment-là quand je finis. Tu sais, quand je joue à un jeu, de dire « J'ai réussi toute seule. »
On dit « Oui, mais l'Internet n'existait pas, mais il y avait les BBS. J'ai vu ça passer.
Ouais. »
Dans le temps...
Les boards,
les
là?
Built-in... Oui,
ouais,
mais ça commençait.
Ouais.
Dans... Mais il y a certains jeux, il n'y en avait pas. Ça n'existait pas
non,
encore.
Il n'y en avait pas pour tout. Puis il ne fallait pas que ta mère reçoive un appel puis qu'elle décrochait le téléphone non plus. Tu perdais tout.
Avec les modems. Là. Ouais,
ça mais tu sais, je regarde ça, là, puis on parle de skipper. Là. Ma fille, avec Netflix, elle réécoute des films genre qu'elle a déjà vus.
Ouais.
Mais après la manette, là... Skip, skip, ce bout-là, skip, skip, ce bout-là.
L'idée.
C'est qu'un film d'une heure et demie, elle l'écoute en 40 minutes parce qu'elle écoute juste les bouts qu'elle aime. Je suis là, mais pourquoi tu fais ça? Ah, oh, mais ce bout-là, je l'aime pas. Oui, mais ça fait partie du film. T'sais, c'est une partie intégrale du film. T'as pas... Ouais, mais je sais ce qui va se passer, ça me dérange pas. Mais déjà là, je réalise que même à 10 ans, elle a souvent, même si on va en quelque part, on commence quelque chose, mais là, ça commence pas tout de suite. Non, il y a des annonces parce que c'est la TV live. Pourquoi? Ben parce qu'ils vendent des annonces, puis ils vendent des gugus. Pour... T'sais, encore là, elle a pas... T'sais, elle n'a pas la patience d'attendre une annonce qui va durer 2 heures, et, t'sais, mettons 2 minutes et demie avant, même si, mettons, j'écoute un match de football avec elle. Mais là, c'est long. Ouais, mais c'est parce que l'annonce fait 15 secondes qu'elle a commencé. Ouais, mais c'est long.
Là,
que
la manette, elle essaie d'avancer.
Ils n'ont pas cette habitude-là, genre, de tolérer comme genre, le tu sais, j'appelle ça comme le temps tranquille. Là.
Ça,
non, c'est tout de suite, il faut skipper. Il faut skipper. Il faut aller tout de suite à l'autre étape.
Ils vont avoir des programmes sur le coin des rues pour changer lumière rouge en verte.
Ouais, mais c'est ça, genre, je vais hacker le système.
C'est ça.
D'après moi, ma fille, elle va être dans Watch Dogs 4 ou quelque chose. commencé à hacker du stock.
Ouais, c'est l'ère de l'instantanéité. C'est pour ça que la télé conventionnelle a de la misère. Tu sais, malheureusement, c'est non, ça. C'est les gens, ils veulent avoir le résultat tout de suite.
Ils appellent ça l'attention span aussi. Là, ouais, c'est, le facteur d'attention. Ça, c'est à chaque année.
Oui, non, c'est fou. Là. Puis c'est now, je veux l'avoir tout de suite maintenant. On va parler de ce jeu. On va faire un petit playtest avec, justement, M. Jean-François Dugas qui est avec nous et Yann Richards qui a joué 25 heures au jeu. J'ai commencé le jeu. Volontairement, je l'ai mis sur pause. On est rendu dans la première. On a passé. On est dans les. Dans la tour. On a enlevé les trucs pour le Wi-Fi qui permettent aux méchants de se communiquer.
Ouais, ça, c'est mieux d'avoir quelque chose vers la fin. Là, parce qu'à part juste un petit poignet de main qui me dit merci, là, je me suis travaillé fort pour te sauver, moi.
Il y a plusieurs conditions.
Okay. Plusieurs conditions. OK, parlons un peu de l'histoire pour ceux qui ne la connaissent pas. Où est-ce qu'on est dans le temps, Jeff?
Ben, pour Mankind Divided, c'est 2 ans après Human Revolution, à la fin du dernier jeu qui avait eu une catastrophe où beaucoup de gens sont morts, ouais. Des augmentés qui ont été contrôlés, puis ça a mal viré.
Une espèce d'apartheid?
Non, ça, c'était dans Human Revolution.
OK, ouais.
Mais là,
OK, je parle de celui-là. Là. Ouais, okay.
Mais là, dans Mankind Divided, là, la poussière est retombée. Et puis là, on vit dans un monde où là, les gens, ou les normaux ont peur des augmentés. Puis là, ça crée toutes sortes de problèmes sociaux.
Des tensions incroyables.
Des tensions. Il y a des lois qui sont passées. Il y a des ghettos qui sont créés où on trouve des bonnes excuses pour dire tes papiers ne sont pas en ordre. On va t'amener dans cette place-là. Vous allez être bien. Mais la réalité est un petit peu plus triste que
qu'est-ce qu'il y a. Une espèce de réserve, hein?
Exactement.
Oui.
Donc, Adam Jensen, ben, il évolue dans ce monde-là. Il travaille maintenant pour une agence antiterroriste qui s'appelle Task Force 29, ou la Force... je ne sais pas comment le traduire. Task Force 29, maintenant.
Okay.
Et puis...
la Force d'intervention 29.
Voilà. Et puis, ben, son rôle, en fait, c'est d'essayer de ramener un peu de calme dans ce monde-là. Parce que le monde qui n'a pas réussi à sauver 2 ans plus tôt, il essaie de faire une différence. Mais en même temps, il y a un agenda secret qui essaie d'aller vers les Illuminati. Il veut les arrêter. Et puis, il croit qu'à travers la Task Force 29, il va être capable d'atteindre ses petits messieurs et ses petites madames.
Yann, est-ce que tu te sens d'attaque?
Vas-y.
Je lance le jeu. Là, ça va être un peu difficile peut-être pour toi de jouer, mais est-ce que tu le vois bien ici?
Ouais, je vois pas si bien.
OK, on va mettre un peu de son.
Je vais blâmer ça sur...
Ouais, quand tu vas te tromper, là, tu diras que c'est marron. C'est l'installation. Donc, on commence avec pas mal toutes les patentes. On est fort.
On est fort. Encore assez fragile.
C'est ce que j'ai aimé au début, c'est qu'on donne le choix de jouer à la vieille façon ou à la nouvelle façon avec les nouvelles commandes. On donne le choix début.
Oui,
ça, c'est très cool.
Ouais.
J'ai aimé ça. J'ai aimé aussi... faites-le le 12 minutes. Si vous n'avez pas joué au jeu, regardez-le. Vous allez comprendre les ramifications de ce jeu-là.
Il y a du stock,
effectivement. Bang! Ça, c'est le saut d'Icar. T'as pas sauté sous le gars pour le faire exploser?
Non.
Non, t'es pas comme ça, toi, hein? Ça va mettre un peu de volume, là.
Copy that.
Hey, facile, cette mission-là, à Star, quand tu sais quoi faire.
Hein? C'est assez bon à ton goût, ça?
Tabarnouche, man. Moi, je me suis amusé là-dedans. Je tirais tout le monde. J'ai fait le tour. J'ai éliminé avec mon saut de l'ange tout ce que je pouvais éliminer.
Honnêtement, j'ai trouvé cette mission-là.
Sur Internet.
Je suis mort à peu près au moins. Je le cacherai pas au moins 5 fois parce que j'ai joué stealth.
OK.
Puis j'essayais d'y tirer un par un.
C'est ce que j'ai fait.
Je n'étais pas vraiment équipé pour le faire non plus parce que j'avais pris le tranquilizer, le rifle.
Ouais, il faut que
l'arme
tu...
Puis un moment donné, j'ai mis un biocell, j'ai monté comme la tourelle, je suis monté là-dessus, j'ai commencé à sniper du monde. Je croyais qu'il ne descendait pas assez vite pour moi. J'ai trouvé cette mission-là, la fin, là, où il y avait été... tu sais, pour quelqu'un qui y allait mode furtif, là, je me suis dit, ils viennent nous beurrer ça épais. Là. Vraiment, j'ai trouvé tough, cette partie-là.
Ah, ouais.
Là, je le savais quoi faire parce que j'ai gossé puis j'ai fait plein de choses.
Ouais.
Mais non, ce bout-là, ben, là, je dois avouer, quand tu y allais, quand j'avais pas tiré personne tout le long...
T'avais-tu la tempête de sable en plus?
Ouais, ou oui, j'ai la tempête de sable.
Okay. Moi, je suis dans la tempête de sable par-dessus la tête, mon vieux. J'ai du sable dans tous les orifices que le bon Dieu m'a donné, dans toutes les augmentations, ça griche. Mais j'ai. Quand tu comprenais pas, j'ai dit, voyons, je suis pas capable. Là, j'y allais de façon subtile. Mais là, les augmentations doivent se recharger.
Oui, puis tu manques d'énergie.
Je manque
ça, c'est
d'énergie.
Un enfant qui est bien équilibré aussi, les takedowns.
Ouais.
Le fait que ça prend de l'énergie, je vois qu'on le fait, parce que sinon, je pense que ça aurait débalancé le jeu.
Ben,
là. Le mode furtif serait devenu comme beaucoup plus facile.
Puis initialement, voilà quasiment 10 ans, quand on est arrivé avec les takedowns, on ne voulait pas qu'il y ait d'énergie reliée à ça. Puis okay. On a fait des playtests avec sans énergie, puis même pour les augmentations en général, mais ça débalançait tellement tout le jeu que les gens disent « Ah, mais c'est ridicule, ça devrait pas prendre d'énergie. » Mais si ça prend pas d'énergie, puis on développe pas un système beaucoup plus complexe, t'auras pas plus de fun. En fait, ça, c'est le
parce que tout le monde va faire des takedowns tout le temps.
Exactement, puis ça brise tout le
Moi, je suis parti avec cette option-là. Je dis « OK, là, on va faire des takedowns, on va les pitcher, ça va voler, en deux, trois en même temps, toute l'équipe. Ah, non, plus de batterie.
Ça m'est arrivé une fois là, dans un gros combat, là. Puis j'ai fait comme 2-3 takedowns. Puis j'ai voulu aller chercher l'autre. Puis quand j'ai passé, C'est que tu vois, moi, mais moi, je vais donner un truc vite, vite, parce que j'aime ça donner des trucs comme ça. Lui, il va peut-être rire de moi, là, mais les praxis points pour augmenter tes habiletés, praxis, là, les points de praxis, je vous conseille d'en garder toujours un en réserve. Parce que tu sais jamais quand tu vas arriver face à une situation que peut-être c'est ce point-là qui va te sauver. Tu sais, comme genre, soit régénérer ta batterie, soit, exemple, prendre contrôle d'une caméra, hacker un niveau 5 à la place d'un niveau 4.
Ouais, ça va.
Gardez toujours, je vous dirais, là, gardez-vous un point en backup. Parce que dans. Tu sais, je vous parle au début, là, pas peut-être vers la fin, parce que là, tout le monde est pas mal upgradé. Là.
Comme dans ton compte de banque, faut tout le temps que tu gardes un petit fond.
Écoutons un peu le jeu des acteurs.
Ça, j'ai trouvé ça aussi gutsy de votre part de mettre les Illuminati tout de suite au début du jeu, qui est supposé être comme le groupe plus caché. Je trouve ça cool, ça.
Puis, tu as des personnages là-dedans, que c'est des personnages qui sont dans le Deus Ex original.
Ouais.
Uh-huh.
Mm-hmm. Pas juste Bob Page.
Non?
Non.
J'ai entendu Denton à un moment donné.
Lui, c'en est un.
Ah oui. Elle devait aller chercher l'acteur d'origine?
Pour lui. Okay. On a essayé d'aller en chercher une coupe, mais c'était difficile. Mais lui, c'est un personnage du...
Il ressemble à Alain Choquette quand il va être vieux.
Le
magicien.
Et pas Atlees, comment il s'appelle, qui était là aussi.
Oh, mon Dieu.
Donc,
lui, c'est un nouveau.
Tu veux que je capte ça?
Ouais, on va aller plus loin. Ouais, Alain Choquette, quand il va être vieux, je te le dis, man. Pareil.
C'est weird parce que ton menu est en français, mais ton jeu est en anglais.
Ouais, ben, je suis comme ça, moi.
OK.
J'ai mis les écritures en français.
On va mettre les sous-titres, par exemple.
Ouais, hein? Ouais. Ben, regarde, maintenant en anglais, si tu veux. Ouais.
Non, c'est pas ça, mais c'est juste parce que quand ça parle.
Bon. Alors, Adam.
Il se réveille d'un mauvais rêve.
Ouais, ça va pas bien.
Elle va pas bien son histoire.
On voit les cicatrices hein, sur la joue. Qui sont
ce qui m'a surpris aussi, c'est que vous avez continué à utiliser Elisa Cachan ou quelque chose qui était à Montréal dans le stade olympique dans le premier.
Ouais.
Mais Adam, il sait qu'elle n'existe pas pour vrai.
Ouais.
Tu sais, je dis, pourquoi ils ne leakent pas ça à Janus et le collectif? Pourquoi les autres, ils ne leakent pas ça tout de
suite? Parce
qu'ils espèrent
qu'elle soit en vie, OK? Parce qu'ils l'aiment, OK?
Okay? Ça m'a surpris. Je dis, oh, comment ça, elle est encore là, elle? Ça fait 2 ans. Puis, hein.
C'est la suite du film Her.
OK, ouais. Scarlett Johansson n'était pas disponible.
C'est ça.
Elle coûte trop cher.
Ça, c'est la séquence qu'on avait montrée à l'E3. Pas le dernier, mais vous
l'avez. J'en veux des lunettes de même.
Ouais, ouais, tout le monde en veut.
Hey, man. Fait que ça. Beaucoup plus de personnes, hein? Beaucoup plus de NPC qui se promènent.
Ouais. Ça, cette séquence-là, on a travaillé là-dessus. À un moment donné, on s'est assis 4-5 personnes, puis ça a été un bon 2 mois de travail.
Est-ce qu'il y a du mocap là-dedans? Est-ce que c'est...
Il y a du mocap, il y a de l'animation à main. Tout faire la chorégraphie, c'est tout fait à l'huile de coude. Wow. Ça a l'air de rien, mais c'est une séquence de ce qu'on appelle un marché-parle, un walk and talk. Là. Ça prend pas 5 minutes, mettons. Puis après ça, c'est qu'il faut que tu sois capable, tu dessines sur papier, puis c'est ça va être quoi les séquences, qu'est-ce que tu vas voir, comment que tu établis le monde, comment que tu établis un peu l'histoire, l'agenda double d'Adam Jensen, mais tout en même temps en reflétant qu'est-ce qui se passe dans le monde.
T'as regardé une certaine logique aussi, puis le fil narratif.
Ouais. C'est très, très, très challengeant. Fait que les gens qui ont travaillé là-dessus, ils ont travaillé fort, puis. Mais je
juste le monde en arrière, tu sais, ça fait comme des figurants dans un film.
Ouais, exact.
T'sais, ils n'ont pas le droit de regarder la caméra. Pour de vrai, ils font rien. Ils font juste marcher du point X au point Z, mettons.
C'est l'illusion.
C'est ça. Ouais. Mais je trouve que la ville de Prague, je ne sais pas si c'est à cause de la force de la PS4, mais je joue sur PS4, là, c'est force maintenant de la machine next-gen, est beaucoup plus remplie que Détroit l'était.
Absolument. Oui, on a plus de force dans les machines, puis aussi... le nouvel engin a été construit avec ce genre d'idée-là en tête et tout ça. Puis je pense aussi qu'il y a une partie de l'équipe qui était là sur Human Revolution, qui était là aussi sur Mankind Divided, qui a plus d'expérience à être capable d'anticiper c'est quoi les défis pour un City Hub, les attentes aussi, etc. Fait que d'emblée, quand on a commencé à travailler là-dessus, on voulait vraiment rendre ça beaucoup plus vivant, beaucoup plus tangible. Après ça, le but, c'est pas une simulation de foule, c'est pas ça, mais c'était de rendre ça beaucoup, beaucoup plus attrayant. C'est sûr qu'avec Détroit, on notre justification, c'est ça la nuit. Là, va te promener à Détroit tout seul la nuit, tu vas voir, il n'y a pas grand monde.
Oh, c'est non, ça. Mais c'est ça. Oh, ouais. C'est souvent comme quand tu joues au jeu de Batman, de Rocksteady. Il y a soit une grosse tempête de neige.
Catastrophe, même.
La ville est sous emprise. Il n'y a personne dans les rues à part des bad guys. Et comme voilà. Ça, Batman, il se trompe pas.
Couvre-feu, man.
S'il y a quelqu'un qui est dehors, you're a thug.
T'sais, on voulait mettre du monde, mais le narratif, c'était pas logique qu'on en mette. Fait que...
Mais comme là, quand tu te promènes dans un ghetto. Tu vois, comme moi, les métros, ça m'a pris du temps vraiment à réaliser que tu avais comme deux stations pour le même hub.
Ouais, ouais.
Ça, j'étais.
Deux ou trois stations pour le des fois, Upper Prague, puis après ça.
Deux, je pense, ou un pour celui-là d'en bas. Ouais, ça m'a pris du temps parce que j'étais comme.
Non,
pourquoi? Non, mais je me disais.
Pourquoi?
Ok, mais. J'ai-tu le droit d'y aller quand même? Faut que j'attende? Ou... J'y vais.
Elle va aller à Prague faire la...
Ouais. Moi, j'y ai pas été personnellement, mais les artistes, les concepteurs de niveau sont allés, ils ont pris des photos, ils ont enregistré, vraiment aller prendre le pouls de la place. Après ça, c'est pas une simulation, ça essaye pas de reproduire Prague à 6.
C'est pas Assassin's Creed là, qui veut dire on va faire la Tour Eiffel, mettons, par échelle ou Big Ben ou ainsi de suite.
Nous, c'est plus une glorification, une caricature de la vraie ville. Le but, c'est de donner l'essence aux joueurs quand ils vont là, que ça leur donne le feeling qu'ils voyagent là-bas. Là, en fait.
D'autre part, est-ce que vous avez fait affaire, encore une fois, avec la gang de DARPA à un moment donné? Il y avait, tu sais, t'en souviens-tu, l'espèce de joueur de baseball?
Là, c'était Will Rossellini. Will. C'était pour Micro Transponder, quelque chose comme ça. Oui, il nous a encore aidé. Ça a été encore un consultant pour les augmentations et les crédibiliser au niveau scientifique. Oui.
Parce qu'il y a beaucoup de recherches qui avaient été faites à ce niveau-là. Ça paraît, oui, juste monsieur. Au niveau des prothèses, je voyais passer sur votre fil Twitter regarde ça, c'est cool. Le gars, bon, une nouvelle main, une nouvelle jambe, un nouveau bras. C'était vraiment, tu vois qu'il y a de la recherche énorme à ce niveau-là.
La réalité est en train de nous rattraper dans le tapis. Là. C'est vraiment fascinant.
C'est fou.
Ouais.
Vas-y, mon Yann, montre-nous ça.
Ah, ben là, c'est encore le walk. C'est ce que West Wing faisait par excellence dans le temps, le walk and talk.
Ouais, ouais, c'est ça.
Mais moi, honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. C'est que ça me. Comme au début, là, j'étais vraiment content. Vous avez montré les Illuminati tout de suite en partant. Je suis dit, OK, là, on n'y est pas avec la POC. C'est tout de suite, ils nous montrent c'est qui les méchants, puis ainsi de suite.
Les méchants rient.
Puis après ça, comme je vous dis, la raison pourquoi, tu sais, exemple, on a nos pouvoirs qui glitch, puis tout ça, ça, je trouvais cool. Je me disais, OK, ça part tout de suite comme ça, puis on niaise pas.
Ouais.
C'est que ça, je trouvais ça cool tout de suite en partant.
Bravo aussi à ceux qui ont dessiné les costumes, parce que encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup de recherches. Au niveau des looks, là, c'est vraiment super bien fait.
Merci beaucoup.
T'as-tu le droit de dire certaines choses ou vous êtes comme. Parce que là, le jeu est sorti, les gens que les NDA sont.
Comme présentement, juste le début du jeu, depuis que tu as commencé, tu étais dans la tempête de sable à Dubaï. Ouais. On a vu les Illuminati, on a vu le walk and talk. Là, on a la scène...
La bombe, le terroriste.
Puis après ça, ça va transitionner appart, à Adam Jensen qui se réveille dans son appartement. En fait, aller jusqu'à fin de l'année passée, même début de cette année-ci, la scène de l'appartement n'existait pas.
OK.
Ah non?
Ça n'existait pas. C'était Dubaï. Après ça, tu avais le walk and talk, tu avais les Illuminati, puis tu descendais tout de suite dans l'ascenseur Task Force 29 pour t'en aller travailler.
Tu skippais comme Prague au complet. Là. Okay.
Puis là, il y avait comme de quoi qui, pour nous, qui filait pas comme on était. En termes de flow, il y a quelque chose. On parle du thème de la division dans le monde, le mechanical apartheid, tout ça, on le sentait pas. Il y avait de quoi qui clochait, puis à un moment donné, avec des collègues. Deux de mes collègues ont parlé, ouais, mais GF, mettons, on le ferait commencer dans son appartement après cette explosion-là. Là, tout de suite, dans ma tête, ça a comme. Là, j'avais là, les scènes que je voulais voir.
Ça l'humanise un peu aussi en même temps.
Ça l'humanise beaucoup parce que ce qui arrivait, c'est que tu as l'explosion. Puis là, il s'en allait tout de suite travailler. Fait que là, tu as l'impression que c'est un... ce qui vient de se passer, c'est banal. C'est... On s'en fout.
Un jour dans la vie d'eux.
Exactement. Ouais. Fait que, puis juste en faisant ça, après l'attentat comme ça, il se réveille dans son appartement, comme tu viens de dire, ça l'humanise. Il prend le temps de respirer.
Il y a des effets. Il est une victime. Parce que tout le long dans le jeu, ils disent hey, t'es déjà là, mais t'as survécu à l'explosion. Exactement. C'est qu'au moins, il faut que ça fasse partie du jeu.
Là, il y avait une panne, des pannes au niveau de ces augmentations.
Il y en a qui fonctionnent encore, mais il y en a certaines qui ne fonctionnent pas. Fait que pour nous, c'était comme une façon aussi de balancer le fait que tu ne repars pas complètement à zéro. Okay. Ce que tu as goûté dans Dubaï, il t'en reste encore.
Il n'y a plus de cigarettes en plus. Ça ne va pas bien.
Non, c'est un mauvais matin. Là.
Le fait que tout le monde le sait, que Darrow, c'est lui qui a fait le signal à partir de Panchea. Est-ce que nous autres, on le sait parce qu'on était là dans le premier jeu.
Oui.
Est-ce que c'est connaissance de tout le monde dans le jeu? Est-ce que genre, ça a été rapporté dans les médias? Non. Parce qu'il y a bien du monde qui t'en parle. Oh, you were in Panchea, you were there. Ça. Mais ça, c'est du monde haut gradé. Ouais. C'est que le monde, le commun des mortels, n'est pas au courant.
En fait, ils savent qu'il y a eu une grosse catastrophe, puis Panchea, etc. Mais personne ne connaît vraiment la réalité, la vérité de qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Il y a des rumeurs à propos
Montre-moi son œil un peu, excuse-moi, je t'ai coupé.
Oui.
Donc là, il peut voir à travers, c'est une espèce de vision.
La smart vision.
Oui, parce que je n'ai besoin un peu, parce que je dois avouer que c'est très sombre, puis j'ai. J'ai de la misère un peu. Là.
Ouais. Mais, donc là, un bel appartement dessiné encore une fois avec vous. Oui, exactement. Donc là, tu cherches quoi dans l'appartement? Tu veux promener?
C'est quoi? C'est ma chambre. OK, c'est ma chambre. Excuse-moi, c'est juste parce que c'est un peu sombre.
Là, t'es dans ta chambre.
Je suis dans ma chambre, OK. T'amènes. Bon. Puis moi, mes boutons sont pas placés. Tu vois, là, j'ai de quoi ici? C'est ma cachette.
Bon, ça, c'est bon. Donc, différents kits, kit de bienvenue du CM, un kit de bienvenue de la
part. Comment ça s'appelle en anglais? Mastodonte?
Le collectif Mastodonte.
C'est le collectif, ça, c'est le... OK. Avec Janus.
Le Juggernaut Collective.
Ouais. Juggernaut.
Ça a été traduit le collectif Mastodonte.
Oui, exactement.
Très intéressant. Je l'apprends ce soir.
Ah, vous travaillez
cool,
beaucoup en anglais.
Encore une fois, moi, j'adore lire dans ces choses-là.
Oui.
Mais là, je ne vous ferai pas là.
Non, c'est ça. Ça vous donner une idée aussi du jeu un peu. Le code du triangle ramassé.
Ouais, ça, je l'ai ramassé. J'ai téléchargé mon application, mais j'ai pas regardé les vidéos encore parce que j'ai peur que ça me spoil des affaires. Ça, tu télécharges l'application. Mais on va laisser. Tu es au courant. Ouais, tu vas pouvoir faire de la promo.
Je suis au courant parce que j'ai participé.
Il a comme travaillé sur le jeu pendant 4 ans.
Ouais, je sais, mais je t'inquiète.
Il y a une chose ou deux là-dessus. Je suis peut-être au courant. Je peux en parler un peu. Non, en fait, les triangles, en fait, c'est des collectibles qu'on peut ramasser un peu partout dans le jeu et ça va donner accès à des behind the scenes où ce que les développeurs parlent un peu de comment ils ont développé certains personnages, certains environnements.
Denis, je sais pas si tu veux le montrer à l'écran, j'ai l'application.
Attends un petit peu, je sais pas si on peut se rendre. Montre-moi ça à l'écran sur ta caméra, juste ici. OK, donc... Je pense que tu peux te rendre, oui. Non, regarde, c'est celle-là ici, regarde. C'est celle-là ici, oui. Alors, c'est une application pendant que... parce qu'on ne l'entend pas pendant...
Oui, ben c'est ça. Fait qu'en fait, avec tous ces codes-là, on est capable de pouvoir télécharger des vidéos avec des développeurs du jeu. Je pense qu'il va y en avoir aussi avec des acteurs qui parlent de leur expérience sur le jeu.
Montre-nous les
etc. C'est fait que c'est un peu comme un genre de pas making-of, mais un behind-the-scenes, puis avoir un différent regard sur ce qui a été produit pour le jeu.
C'est cool. Donc, Yann, montre-nous ça, s'il te plaît. Tu es en train de le faire tranquillement, pas vite. Bon, OK, on t'entend pas, Yann. Il faudrait que ce soit...
Fait que là, c'est une application qui est sur le téléphone mobile, dans ce cas-ci, un iPhone, où on peut voir les triangles qu'on a chargés, en fait. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, quand on a collectionné ou ramassé un triangle dans le jeu,
Yann,
on peut le mettre à l'écran.
Oui.
On le met à l'écran et on prend la caméra de l'application de Deus Ex pour scanner ce code-là et ça va nous donner le lien pour aller visionner la vidéo ou si c'est une image ou peu importe, parce qu'il y a plusieurs trucs. Là. Je pense qu'il y a 35 codes à découvrir exactement.
Bon, Yann est dans toutes les shots. OK, montre-nous ça. OK, les statistiques du jeu, oui, voilà. Les points Praxis, oui. On t'entend pas, moi, Yann. C'est ça. Moi, j'essaie de traduire en même temps en français.
Mais en fait, c'est ça. C'est un peu comme quand tu joues un GTA, ouais. Ces trucs-là, tes statistiques, combien de kilomètres okay. T'as marché, comment ouais, ci, ouais, comment ouais. Ça. Ben, y a un peu ça, mais adapté pour l'expérience du Usex, où que tu ouais. Peux voir un peu tout ce que tu as fait, si tu as tué, tu as été stealth, tu as okay. Été ci, tu as été ça. Etc.
Donc, c'est des applications compagnonnes.
C'est
qui
ça.
Viennent,
c'est une application ouais, qui vient.
Viennent rajouter un peu de dimension dans, voilà. Dans tout ça.
Voilà.
Sauf que c'est jeu. Sûr que des fois, il y a des choses qui. Tu sais, comme moi, ça me dit que j'ai joué 0 heure.
Ouais.
Mais que j'ai eu 131 000 XP. T'sais, c'est comme c'est, bon. Des fois, c'est des mini-bugs, mais ça dérange pas, ça affecte. C'est juste des.
Ça arrive, là.
T'sais, ça me dit que j'ai passé 97 heures cloaked.
Ouais, ça c'est t'sais, toi.
D'après
ça.
Moi, je me dis que c'est sûrement. Encore une fois, c'est pas mise à jour, là.
Ouais, c'est ça. T'as-tu le nouveau iOS, c'est ça?
Non, non, c'est pas nous autres,
c'est Apple.
C'est
ouais,
c'est
ça. Les clients, ce qui est cool, c'est que ça donne des petites vidéos YouTube
exact.
Qui donnent plus de détails sur l'histoire. Okay. Ça, c'est cool, pareil.
Revenons à notre jeu.
Revenons au jeu. De toute façon, ouais. Il s'est bien expliqué là, tout de suite ouais. Au début.
Donc, l'application est gratuite, bien sûr. C'est iOS et Android ouais. Aussi, j'imagine?
Ah oui.
OK, cool. Donc, on est dans notre appartement. On fouille un peu.
En parlant d'appartement, checkez ça, les petits détails ici. Je ne sais pas si on va le voir.
Ça, c'est gossé avec amour,
mais,
ça.
Mais regardez
c'est
ici,
avec
là.
Amour.
Ça, j'ai remarqué ça.
Ça, c'est
un
villa
que...
qui a sculpté ça.
Non, non, mais j'ai regardé ça parce que j'étais...
Regarde, c'est l'espèce de dessin quand il est en feu.
Quand il est en feu avec ouais, les ailes
exactement.
Qui brûlent.
Le mythe d'Icare.
L'Icare, ouais. C'est ça que je cherchais. Et il est d'équerre, Icare.
Ça, oui, c'est une autre question, encore une fois, vu que c'est déjà, ils viennent d'en parler, parce que David Seriff, il nous a appelé.
Ouais. Ouais.
Si on décide de ne pas l'appeler pantoute pour les quêtes secondaires, on peut finir le jeu sans avoir parlé à David Seriff. On fait juste skipper comme des...
Nous sommes d'accord.
Ouais, ben, parce qu'il faudrait que tu nous montres un peu le jeu, ce que ça a l'air.
Ouais, excuse-moi.
Ouais, je sais, parce que c'est difficile de parler et discuter en même temps. Parler et discuter en même temps, c'est pas facile. Bon, il nous appelle. Qu'est-ce qu'il raconte, lui, là?
Ben lui, c'est notre boss dans le premier. Ouais, ça fait exact. Comme un bout qu'on ne l'a pas vu. Puis sa compagnie, elle se fait acheter par un autre.
Donc,
on va le provoquer parce qu'on n'est pas content, parce qu'il nous a abandonnés.
Bon, donc on passe des bouts, vous l'aurez deviné.
Ouais, c'est...
Puis en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que tu peux tout explorer un pan des deux ans entre Human Revolution et Mankind Divided, parce qu'Adam Jensen, il y a un petit blanc de mémoire. Puis avec David Seriff, tu peux te ramasser dans une quête pour en apprendre plus par rapport à toi-même.
Okay.
Mais ça se peut que dans ton appartement, comme on est présentement,
que tu n'as
jamais à la télévision, que tu n'as jamais parlé à David Seriff, que tu n'as jamais exploré ce qu'il te parle. Puis tu le sauras jamais tout. Fait que c'est vraiment aux joueurs de s'investir dans les quêtes secondaires
genre, est-ce que je fais ça?
Ou pas.
Là, on saute des bouts, vous l'aurez deviné, pour ne pas vous spoiler votre plaisir sans trop de spoiler. Mais écoutez, il est très beau ce jeu-là.
Puis mon autre question aussi, qui est un peu bizarre, dans le menu principal, quand c'est marqué Jensen Story ou quelque chose, ça, c'est suggéré de jouer après le jeu. Parce que quand j'ai voulu le commencer, ça me dit, ça va te donner genre des spoilers pour le jeu. Puis là, moi, j'aime pas ça, des spoilers.
C'est ça, ben, tu peux le jouer quand tu veux, parce que tu l'as acheté et tu fais ce que tu veux.
Oui, mais normalement, vous suggérez
c'est ton problème. Non, mais on suggère parce que oui, effectivement, il y a des choses qui sont... si tu le joues, mettons, t'as acheté Mankind Divided, puis tu downloads tout de suite ton DLC puis tu commences à jouer, ça va faire référence à des trucs que t'as peut-être pas encore joué.
OK.
Puis que là, tu peux être un
peu... OK, Legend of Story, c'est le DLC.
Ouais.
OK, OK.
Exactement. Okay. Fait que c'est pour ça qu'on recommande après ça.
Donc, des ordinateurs, il y en a beaucoup. On en apprend davantage sur l'histoire, sur les différentes affaires.
Bon. Ça, comme là, on vient d'ouvrir les panneaux comme secret, comme dans l'ordre, dans la maison. Puis là, c'est là qu'on a comme on peut stocker notre équipement, c'est comme notre inventaire.
Des réserves.
En réserve.
Est-ce qu'on les voit avec notre œil magique, ces trucs-là?
Il y en a que oui, il y en a que non.
OK.
Les panneaux sur le plancher, oui, on les voit.
Mais pas dans les murs.
Mais dans les murs, quand ils sont cachés comme ça, souvent, on va voir quelque chose, mais on ne sait pas la switch est où.
OK.
Il y a comme ici, là.
Ah, coffre-fort.
Il est là, là. Si, mettons, je le ferme, le panneau.
Là, tu le vois, là.
Si je vois qu'il y a quelque chose en arrière.
Okay.
Mais des fois, la switch n'est pas aussi évidente que là, elle l'était.
En tout cas, méchant appartement, mon vieux.
Ouais.
C'est dans le vieux, ça? Non,
c'est dans le vieux Montréal.
Bon, maintenant, je suis rendu où je lève des frigidaires. Là, mais...
Déménage. Le clan Tonton serait content de travailler avec lui parce qu'il est très fort.
Puis il est bien dadon, il garde tout dans ses boîtes brunes. Fait qu'il a juste à replier.
Pas de problème, man. Ah, oh, regarde, les poubelles de recyclage n'ont pas évolué trop. Donc, c'est un bon modèle.
PS4, je trouve ça cool que quand les écouteurs parlent, ça parle à travers le.
Malin, pas loin de ton truc. Of course. There's a lot of work ahead of us, Jensen. Ça sort de la manette.
Ouais.
Très cool. Donc, nouveau pack 6. Un pack 6 disponible.
Je ne sais pas.
Allez, lâche pour là. Something wrong? There are some guys in my bookshop. Pissed off the valley gangster looking guys. So,
Unless you want bloodshed the day after a terror attack.
The front door isn't the most peaceful option. I got it.
Lui, il est triste, on ne sait pas pourquoi, mais...
Parce qu'il se fait évincer de son appartement. C'est ça, le papier que ça apporte, si je me rappelle bien, c'est tout en tchèque. C'est justement, ça dit qu'il a violé les codes de la ville, etc., de la loi, tout ça. Fait que il y a un passeport one-way pour Golem.
Tu vois, comme ici, là,
mais lui, est-il augmenté, ce gars-là?
Oui, tout le monde qui est là est pas mal augmenté.
Okay. Puis même si on ne le voit pas sur ses bras ou ses jambes, parce que c'est pas tout le monde que c'est des augmentations.
Visibles.
Oui, exactement.
Il y a un kit Praxis là tout de suite en partant, les amis, si vous le voulez. Il est caché dans le plancher. Ça ne dérange pas. Tu vois, tu prends son stock. Lui, il fait juste continuer à pleurer.
Il n'est plus là, lui. Là, non, sa vie, il se crappe.
Il a de la peine.
Ben ouais.
Le piratage, lui, était niveau 4. Je me suis dit, ça ne dérange pas, je vole son stock, mais son ordi, par exemple, il ne veut pas que je touche.
Tout son porn, cool, là-dedans. Tout son porn, man.
C'est que tu peux sauter où tu veux.
Ouais, ça, c'est cool.
Tout de suite, quand tu veux. Puis sinon, les Icarus, ils partent comme automatiquement. Eux autres, vous pouvez jaser avec eux autres. Il y a comme une culte tout de suite machine gun.
OK.
Et ici, attends une minute, ma mémoire est... OK, le meurtre n'a pas eu lieu tout de suite, parce que ça, c'est quand je reviens la nuit. Je vous conseille, quand vous revenez la nuit...
C'est quoi cette trace-là qu'on voit, là?
Ça, c'est juste de la
verdure.
C'est
de la verdure, OK.
Si vous venez dans le coin ici, là, en revenant, c'est-tu là? Ouais, c'est là. Je vous conseille de venir dans le coin ici. Il y a quelque chose qui va se passer. Puis c'est une petite quête secondaire qui est vraiment cool. On joue au détective.
Ah, nice.
Et une de mes quêtes préférées, je ne sais pas si on va pouvoir le faire là, ici. Là.
Boom.
Cult of Personality.
Ouais. Celle-là, là, je lève mon chapeau. Moi, là. Je voudrais travailler dans un jeu juste pour une chose et créer des quêtes secondaires. Il me semble que je serais bon là-dedans. Là,
qu'est-ce que t'aimes de cette quête-là, Yann?
C'est... Je sais pas si c'est par là. Comme je vous dis, j'ai de la misère un peu à voir à cause des lumières et ces sombres, là, mais la quête est... Comment je peux dire ça? C'est psychédélique. En même temps, ça fait un débat. Comme... Ma grosse critique du premier, puis on peut le dire parce qu'il est sorti depuis 2009, je pense. Là,
2011.
2011. Je sentais que des fois que c'était comme deux jeux séparés. Il y avait le mode où je faisais comme le niveau complet en mode furtif. Puis là, j'arrivais, puis là, il y avait un boss fight. Puis là, je me disais, qu'est-ce que c'est ça? je capotais. J'avais de la misère. Pas parce que j'avais de la misère, mais je me disais, mais ça me semble que ça me coupe mon expérience douce. Mm-hmm. Celui-là, j'ai 24 heures de jouer, zéro boss à la date.
Ouais.
Comme tel, là, je veux dire, où est-ce que je peux pas m'en sortir à un niveau furtif. Je trouve que ça, c'est une belle évolution. Je sens pas que ça me coupe, que c'est comme deux jeux cachés en un. Mais les quêtes secondaires, puis ce que vous avez rajouté, qui est comme maintenant les débats de conversation.
Dans les quêtes secondaires.
Dans les quêtes secondaires. Ouais. Ça, là, je lève mon chapeau, c'est cool. Essayer de convaincre l'autre personne de ton point de vue. Être capable de finir une quête où, tu sais, à place d'un combat comme 25 personnes, tu fais juste convaincre l'autre de voir ton point de vue. Si ma blonde, elle écoute, elle va savoir que ça, c'est moi comme à 100%. Là, essayer de convaincre les gens, essayer de leur expliquer des choses. Je capote là-dessus. Puis je prends même pas le social answer parce que je trouve ça comme trop cool. Là, dans un sens,
C'est plus toi
c'est
qui
ça, s'investit. C'est ça. C'est moi qui s'investis dans une conversation. Je trouve que ça, c'est une super bonne idée. Puis ça, c'est arrivé quand dans le développement du jeu?
Les débats sociaux, ça, c'est, on avait commencé à voir ça sur Human Revolution, mais on voulait démocratiser ça, on voulait l'amener davantage dans le nouveau jeu, peut-être dans des moutures peut-être un peu plus simples que comme les boss sociaux, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que ces moments-là, ces débats-là qu'on crée, ceux-là à grand déploiement, c'est excessivement long. On parle de peut-être entre 5 et 6 mois de travail pour un seul débat. Et donc, on ne peut pas maintenir ce rythme-là pour avoir 25 personnages, 30 personnages qui font ça et tout ça. Fait qu'on a essayé de réfléchir à avoir des versions plus simples de cette expérience-là pour des quêtes secondaires, justement, pour enrichir le côté social, puis avoir plus d'opportunités, puis que aussi le social ait plus souvent un impact dans le déroulement, le dénouement
de
tes intrigues, de l'histoire, de tes challenges, etc. Mais oui, c'est ça. C'est quelque chose qui fait longtemps qu'on avait, mais qu'on voulait développer davantage. Et puis, l'équipe qui s'occupe des quêtes secondaires, ben, ils ont vraiment embrassé ça, puis ils ont vraiment travaillé fort, puis ils ont vraiment fait une bonne job.
Tu sais combien sur l'équipe?
On était beaucoup. Je dirais au moins 150, 180 dans ce coin-là.
Puis quand vous avez commencé, vous êtes mis dans les mêmes conditions que pour le premier. Le premier était un hit, on le sait.
Ouais.
Vous avez tenté de reproduire ce même noyau de cette espèce de laboratoire d'idées. Là. Il y a-t-il 4 au début, 4-5?
Quand on a commencé Human Revolution au départ, il y avait David, il y avait Jonathan, il y avait François et moi. On était 4. Mm.
Puis là, pour celui-là?
Puis pour celui-là, on était un petit peu plus nombreux parce que là, le studio existait déjà. Ouais. Mais quand on part en conception, on s'assure tout le temps d'être à peu près 5-6 personnes, un groupe assez restreint. Puis des fois, ben, on invite d'autres personnes de l'équipe pour venir nourrir la discussion, ce qu'on appelle avoir des invités spéciaux du jour pour un brainstorm quelconque. Donc, il y a eu beaucoup plus de gens qui ont contribué sur celui-ci très, très tôt en conception. Mais ça reste encore quand même un cœur créatif de quelques personnes qui vont vraiment mettre de l'avant les nouvelles idées pour...
Question qui vient sur Twitch, oui. Jean-François. Mort d'ennui, il veut savoir combien d'heures de jeu est-ce que tu estimes
pour environ. Ce jeu-là, ça dépend quel style de joueur mort d'ennui que tu es. si tu es le type de joueur qui fait juste les quêtes principales, qui est très, très... orienté sur l'action puis, et tout ça. C'est un jeu qui se fait peut-être en 18-20 heures. Si tu es plus le style de joueur qui aime prendre son temps, explorer, lire, être furtif, etc., etc., c'est un jeu qui peut facilement durer 30 heures, sinon plus.
Oui, parce que le mode furtif, ce qui arrive, c'est que tu veux faire tes missions en mode furtif aussi. Comme moi, je suis rendu à 20 heures et plus puis j'ai pas tué une personne à la date.
Exact.
Ça fait que c'est sûr
moi, j'ai
que
fait
ça
4 heures, je n'ai tué une critique gang.
Mais c'est ça, c'est que ça dépend de ton...
T'es un homme en colère.
Ah, moi, j'ai
mais
des
si tu joues furtif, tu doubles ton temps de jeu parce que faut que tu attendes que le garde il passe. Après ça, faut que tu prennes ton stock, faut que tu passes en arrière de lui, faut que tu essaies de te cacher.
Moi, j'ai volé du stock, man.
Si tu rentres avec un shotgun, tu tires sur tout le monde.
Yes.
C'est ça, c'est, ta mission va te prendre, mettons, 20 minutes. Mais ta mission qui te prend 20 minutes parce que tu prends un shotgun, tu sais tout le monde. Moi, me pris 1h15 parce que je me suis caché en arrière d'une boîte. Parce que j'étais me caché en arrière d'une autre boîte. Ça dépend vraiment de ton style de jeu.
Moi, j'ai
tu
fait toutes les sacoches et les poches que j'ai trouvées, man. J'en ai des balles, ça me sort par le wawa.
Mais un autre conseil que je vais donner aux gens s'ils décident de commencer à jouer ou l'acheter, c'est explorer. Avant d'aller voir votre boss ou ainsi de suite, explorer Prague, aller dans les sewers, dans les égouts. Il y en a des missions là, il y a du stock de cachets. Et pour gérer vos missions, c'est facile. Vous allez ici. Puis là, vous avez les quêtes principales, vous avez les secondaires, les zones d'intérêt, puis l'historique de ce que vous avez fait. C'est que, tu sais, mettons, là, faut que j'aille aider mon ami là, qui s'occupe de moi, techniquement. C'est que là, vous voyez, le point, il est là, le jaune, dans l'écran. Puis les missions secondaires, mais là, moi, le point, il est plus bleu, là.
Ben, c'est pas ça.
Mais écoutez les gens parler des fois. Oui,
on apprend des choses. On apprend des choses.
Ils vont vous apprendre des choses.
Question de Soros73. Une équipe de dev de gaming, ça travaille comment au jour le jour? En mode agile, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là.
Oui, là, je connais le mode agile. Ça travaille comment? Ça dépend des équipes dans l'équipe.
C'est quoi le mode agile, excuse-moi?
C'est toute une série de tâches, on va dire. Mettons, on veut faire une feature quelconque pour le jeu. Mettons, le système de couverture. Ben là, on va décliner ça en plusieurs tâches.
Okay, je
comprends. Il faut faire un truc, il faut faire un autre truc. Puis on va donner des points à chacun de ces trucs-là. Et après ça, ben là, on va dire dans une semaine, on est capable de faire tant de points.
OK, je comprends.
Puis là, on décide quels trucs sont les plus importants et tout ça. Ça a été utilisé sur ce projet-ci pendant un certain temps. Mais la méthode que je favorise, ce n'est pas la méthode agile, c'est la méthode organique. Parce que faire un jeu... le but, c'est de se rendre le plus vite possible au moment où tu es capable de jouer.
Avoir l'espèce de vertical slice, la tranche verticale, le morceau de gâteau qu'on peut goûter. Finalement.
Exactement. Et parce qu'en fait, on a beau dire, tu as tant de points d'une semaine, puis on peut faire tant de petits cartons, de petits sous-tâches, etc. Si le jeu n'est pas le fun, s'il y a quelque chose qui manque, c'est pas tes petits cartons qui vont te le dire. Il faut vraiment être capable de jouer au jeu, faut vraiment être capable de prendre le pouls, faut le vivre, faut être honnête aussi, puis voir quand que ça lève pas, puis etc., etc. Fait que c'est vraiment, je dirais, de l'itération beaucoup plus que de la méthode agile.
Il y a Burke qui veut savoir pourquoi avoir choisi Prague plutôt que Montréal.
Ben, quand on a fini Human Revolution, on
était pas mal à Montréal. Hein?
On savait qu'on n'avait pas touché à l'Europe du tout avec le jeu. Fait que peu importe c'était quoi la suite de Deus Ex, on savait pas qu'est-ce que Mankind Divided serait. Bon, la seule chose qu'on savait, c'est que ça irait en Europe. Donc, c'est pour ça. Fait qu'on veut... Deus Ex, c'est à propos de voyager dans le monde, puis on veut tout le temps aller vers des nouvelles locations le plus originales possible et essayer d'y aller avec des trucs qu'on s'attend et des choses qu'on s'attend moins.
Il y a Dom Raptor 97 qui veut savoir si vous travaillez déjà sur une suite.
Ah ben là, il veut trop en savoir, lui. Là. moi, je suis en vacances. Là.
C'est bon.
Je reviens travailler la semaine prochaine.
C'est demain, un peu Megadeth. Combien de missions secondaires est-ce qu'il y a dans le jeu? C'est Megadeth qui veut savoir ça.
Megadeth.
666 Megadeth. Iron six, Man, Megadeth.
et en passant, non, il n'y a pas de Easter egg de Megadeth dans Mankind Divided, non, comme il y en avait dans Human Revolution.
Non, pourquoi?
en fait, il y a une dizaine de quêtes secondaires. Et ce qui est intéressant avec les quêtes secondaires, de la façon qu'on les a construites, elles peuvent être très rapides ou elles peuvent être très longues selon ce que tu découvres. Ce qui semble être une petite histoire banale en surface peut se développer en quelque chose de beaucoup plus profond. Fait qu'on a une dizaine, mais tu peux passer énormément de temps dans beaucoup d'entre elles. Donc, il y a plusieurs heures de plaisir dans ces quêtes-là.
Il y a... Comment il s'appelle?
Ouais, c'est comme il enchaîne. C'est ça que j'ai trouvé cool, moi aussi. C'est qu'il enchaîne une sur l'autre. Sur le fait que, tu sais, tu commences avec une chose, après ça, il y a une autre quête qui arrive, après ça, il y a une autre... C'est que ça, c'est... Honnêtement, j'ai trouvé ça cool parce que ça devenait comme enchaîner une par-dessus l'autre.
Ouais.
Tu commences une chose, tu n'entends pas parler pendant genre 5 heures de jeu, puis là, ouh, c'est quelque chose qui arrive.
Ouais.
Ça, c'est vraiment cool.
Il y a Red Ketchup 21 qui veut savoir si... Combien de villes on visite au total dans ce jeu?
On va à Dubaï, on va à Prague, on va dans le ghetto de Golem, on va dans les...
Tu peux arrêter parce que moi, j'ai pas dépassé ça. Oh. Dommes-en, mais dis pas les
blabla. On va aller dans blabla, puis on va aller dans blabla.
Mettons
5-6 locations, oui.
Maintenant, mort d'ennui, est-ce que l'espace d'inventaire est limité ou on a de la place à l'infini?
Pour... C'est limité.
C'est limité, puis il faut...
Illimité ou limité?
Limité,
mais qu'on peut...
Augmenter,
etc., pour avoir plus d'espace, parce que ça fait aussi partie de l'expérience de Deus Ex, ses choix et conséquences, puis c'est quelque chose qu'on appuie au bas niveau, c'est-à-dire le gameplay de base jusque dans le narratif, et l'inventaire fait partie de ça. On veut... que les joueurs soient capables de définir leur propre personnage. Quel type de personnage sont-tu? Le type combat, le type furtif ou un, comment je dirais, un MacGyver, un petit peu de tout.
Un peu de tout.
Et, fait qu'avec un inventaire limité, ça encourage le joueur à vraiment réfléchir quel type de personnage qu'il veut être et qu'est-ce qui est important pour lui.
Comme moi, je suis mode furtif, c'est que je prends les grosses armes puis j'y revends après pour faire de l'argent pour acheter d'autres choses. Puis là, comme vous voyez, tout à l'heure, j'ai passé ici à droite puis j'ai ouvert une porte, je l'ai hacké. Mais il y a une autre place aussi qu'on peut rentrer la porte directe si on veut, mais il a dit, tu sais, si tu veux éviter le bloodshed.
Pas te faire tuer, finalement, tu passes ailleurs.
Ouais, parce que
t'es fugace, comme ça.
On n'est pas vraiment équipé. Denis, t'as pris furtif, toi aussi, c'est
ouais,
ça?
Oui, j'ai pris furtif. Ouais. Moi, je suis comme
c'est
ça.
Tu sais, si on regarde, mettons, ici, il y a du monde.
Ouais.
Mais. Tu sais, il y a une autre place ici qu'on peut passer. C'est que là, à date, j'ai.
T'avais un beau câble à utiliser, là.
J'ai trois places qu'on pouvait rentrer, techniquement, dans le magasin où on va, là.
Est-ce que ça prend un méchant ordinateur pour jouer à cette version PC?
Là, pour toutes les specs PC, je ne sais pas okay, par cœur bon. Du tout, puis je ne voudrais pas te dire de conneries.
Est-ce que j'ai pas joué à Human Revolution? Est-ce que c'est possible de commencer par celui-ci? Oui, absolument. Je pense que tu peux regarder. Je me permets, moi, de répondre. Le 12 minutes au début, et tu vas être bien situé dans l'histoire. Mais je t'invite, si tu es capable de le trouver, pas cher, parce qu'il est possible de le trouver en ce moment, de l'essayer, et tu vas l'aimer aussi, je pense. Tu vas avoir tu vas être mieux situé dans l'histoire par la suite. Mais oui, c'est possible de faire sans problème. AKA GM94, qui veut savoir, crémeuse ou traditionnelle?
Traditionnelle.
Excellent.
Puis du Saint-Hubert pendant un projet, on envoie en tabarouette.
Ouais, j'imagine. Il y avait des clins d'œil qui avaient été faits dans Splinter Cell à l'époque chez Ubi.
Ouais.
Il y en avait des boîtes, puis il y avait le petit coq qui arrivait avec le char.
Avant le clin d'œil, 0451, encore une fois, bravo. La première porte, je l'ai ri.
C'est la tradition.
Ouais.
Ça, c'est un code qui était dans System Shock, qui était dans BioShock.
Il est partout, même.
Dans les premiers Deus Ex. Il est partout.
Il est dans Dishonored aussi.
Ouais.
Ils l'ont mis un peu partout. Aussitôt que tu as un jeu un peu furtif, là, ils te mettent ça là-dedans. C'est comme un clin d'œil, là, mais il est tout le temps là. J'ai ri. La première porte, j'ai tout. Mais là, c'est impossible, j'ai le code déjà pour l'ouvrir. Là. Je viens de commencer le jeu. C'est que là, j'ai gossé, j'ai fait. 4-5-1-0. Après ça, tu sais, j'ai commencé à gosser de même. Là, finalement, ça
c'était
a fonctionné.
Pas loin.
Là. Ouais, j'étais proche.
On veut savoir également si c'est un petit peu... c'est quoi le mode Breach? Qu'est-ce que c'est, le mode Breach?
Ben, en fait, c'est un mode arcade dans lequel on reprend les mécaniques de base de Deus Ex. Et en fait, on ne joue pas Adam Jensen, on joue ce qu'on appelle un Ripper, qui est en fait un hacker qui évolue dans un monde virtuel. Et le but, c'est un peu comme un Robin Hood digital, aller dans les fermes d'ordinateurs où que toute l'information est stockée, aller chercher l'information un peu, je dirais, délicate de certaines corporations, etc., puis avoir l'opportunité de l'exposer à la vue du monde. Donc, c'est narrativement, c'est un peu le contexte, mais après ça, c'est des niveaux avec toutes sortes de puzzles, de challenges, okay. Que tu peux aller chercher des habilités pour ton personnage, puis tu peux envoyer aussi un component social à ça, où on peut envoyer des challenges à des amis, puis tout mettre okay. des modifiers sur les challenges. Et si ton ami réussit le challenge, c'est lui qui a les points, et s'il échoue, c'est toi qui as les points, puis ça fait fluctuer le leader board comme ça.
Il y a Blue the Color qui veut savoir s'il y a beaucoup de choix à prendre dans Human Evolution. Est-ce que ces choix-là sont pris en considération dans ce jeu-là?
Oui et non, dans le sens que malheureusement, quand on a fait Human Revolution, c'était sur l'ancienne génération de consoles, puis aussi le fait qu'on ne savait pas si on allait en faire un autre dans le futur, donc on n'avait pas nécessairement pensé plus loin que Human Revolution, mais dans Mankind Divided, les choix que tu as fait dans Human Revolution, surtout avec les fins, etc., ben ça fait toute partie, tout est canon en fait, parce que comme je disais plus tôt dans l'émission, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Il y a Adam Jensen ouais. qui sait ce qui s'est passé. Il y a Elisa Cassan qui sait ce qui s'est passé. Et il y a le joueur qui pilote Adam Jensen. Donc, après ça, tout est un effet de rumeurs, de spéculations, etc. Donc, le monde de Mankind Divided est intimement lié à ce qui s'est passé dans Human Revolution.
OK. L'autre question, c'est Phoenix 713 qui veut savoir si on fait des missions de manière furtive, est-ce qu'on est récompensé comme dans le premier?
Ben en fait, on a changé ça un petit peu. Les points d'expérience qui sont donnés aux joueurs, tout dépendamment si on joue combat ou furtif. Dans le précédent jeu, notre vision, c'était qu'en fait, si tu étais furtif, tu travailles plus fort, tu es ouais. plus patient, donc tu mérites plus de points. Mais au final, pour les joueurs, qu'est-ce que ça a donné comme expérience? C'est la façon de jouer le jeu, c'est d'être furtif parce que c'est la seule façon que j'ai de maximiser mon personnage, alors que ce n'était pas notre intention. Donc, pour ce jeu-ci, en fait, on a rebalancé ça, que si on est combat ou furtif, on reçoit à peu près le même nombre de points, mais pas nécessairement au même moment. Donc, ce n'est pas à propos de te récompenser pour faire le truc, c'est vraiment à propos de laisser les joueurs jouer de la façon qu'ils veulent jouer.
OK. Ben, j'ai vu souvent qu'en mode furtif, j'ai mes points à la fin de la mission.
Exactement.
Genre ghost, voilà. peu importe les raisons de pourquoi j'ai eu plus de points. Là.
Parce qu'on ne sait pas pendant la mission si tu vas réussir à être stealth ou pas. Donc, tu as tes points à la fin, alors qu'en combat, tu les as en plus petits morceaux, mais constamment.
OK.
Ouais.
Autre question qui... Attends, je viens de le perdre. Tabarouette. Le Twitch vient de débarquer sur mon téléphone, ça n'est pas long. Ça va être très... c'est Talbot qui veut savoir s'il va y avoir éventuellement du multijoueur dans ce jeu-là. Peut-on assumer qu'un jour, on va être capable de jouer dans la même histoire en mode scénario?
Oui, c'est une idée intéressante. C'est une question intéressante. On ne l'a pas fait jusqu'à date pour la seule et simple raison que pour nous, Deus Ex, c'est vraiment une expérience solo ouais. etc.
C'est tes choix, techniquement. Voilà. Tu guides l'histoire selon ce que tu fais comme ouais. choix.
Pour nous, ouais. c'est plus comme lire un livre dont vous êtes le héros, en quelque sorte. Après ça, si un jour, on trouve une idée qui fit vraiment bien dans l'univers de Deus Ex puis qui viendrait vraiment rehausser l'expérience à plus d'un joueur, c'est sûr qu'on le considérerait. Mais pour l'instant, comme on n'a pas encore trouvé cette idée de génie-là...
de refaire le premier avec cet engin-là?
Mais bien sûr.
ça doit rentrer. C'est le studio ou plus des fans qui vous demandent ça?
Ah, c'est les fans. Les fans,
ouais.
beaucoup.
Ouais. Mais, est-ce qu'il y en a qui vous ont approché en vous disant, nous autres, on est prêts de commencer, comme on voit souvent,
ouais.
il y en a qui font des remakes, surtout ouais. des licences de Nintendo. Ouais. Je pense à le System Shock, le remake ouais. qu'ils font.
Ouais.
Souvent, il y a des studios qui participent. Ben, participent.
Ouais.
On dit plus, on donne le feu vert, on dit, ben, lâchez-vous là si vous voulez le faire.
Ouais.
Qui font, je pense à moi qui a beaucoup joué avec les vieux jeux de BioWare, les Neverwinter Nights, les Icewind Dale, ouais. les Baldur's Gate. Ils ont donné le feu vert aux studios de rajouter des licences, de rajouter des quêtes. Est-ce que vous avez le pouvoir de faire ça? Quelqu'un qui vous approche, mettons, on est un collectif mastodonte qui dit nous, on veut prendre le code du premier Deus Ex, puis on veut le revamper avec vous.
Ben, en fait, il y a déjà une communauté qui travaillait, je ne sais pas s'ils travaillent encore dessus, mais sur le Deus Ex original pour le revamper visuellement.
Ça fait longtemps, me semble, travailler là-dessus.
Oui, exactement. Puis je pense qu'au niveau marketing, on les a supportés, au niveau communauté, on les a supportés pendant un moment. Je ne sais pas ce que c'est rendu, pour être honnête. Mais on a beaucoup de demandes pour que ce soit l'équipe de Deus Ex qui fasse un véritable remake de l'original.
Ben, ça serait populaire.
Peut-être,
oui. Est-ce que ça vous nuit lorsque les gens font ça? Est-ce que quand on regarde, pour ne pas dénommer Nintendo, dès que quelqu'un sort quelque chose, bang, arrête ça, sinon on te poursuit.
Un cease and desist.
Oui, c'est ça.
Ben non, nous, on a plus l'approche que les gens sont passionnés, sont excités. Tu as des gens qui sont prêts à se donner corps et âme pour ta franchise, puis après ça, aller les rabrouer, puis aller leur couper l'herbe en dessous des pieds.
C'est pas cool, c'est pas cool.
Ça dépend comment c'est fait. C'est sûr que s'il y a des fans qui arrivent d'une approche, puis que ça peut être nuisible pour le business, à un moment donné, c'est normal, puis c'est les droits de la compagnie de mettre son veto. Mais la plupart du temps, quand c'est fait avec respect, quand c'est fait avec amour,
on le sent aussi,
essaie toujours de le supporter, puis tout ça, parce que c'est nos fans, puis ils aiment ça. Là,
question difficile.
Ouais.
Ta quête secondaire préférée dans le jeu, c'est laquelle?
Moi, j'ai beaucoup aimé Cult of Personality.
Celle-là que j'ai aimé dans ça. Ouais.
Moi, je l'ai beaucoup aimé, celle-là.
On veut savoir également qu'est-ce qu'il va y avoir dans le Season Pass.
Ça passe de saison. Ça a-tu été annoncé, ça? Parce que je suis en vacances, fait que je
veux pas... Moi, j'ai trouvé cette image-là. Gabin, attends un peu. Je vais te montrer une image. Là, tu me diras si c'est un peu... Ah, elle marche plus,
Carlin. Parce que je voudrais pas, commettre une bourde...
Un faux pas.
Non. Un faux pas. Une faille chicanée quand j'arrive le mardi au travail.
Non, mais ça, tu dois te parler de ça, cette histoire-là.
C'est quoi cette affaire? Ah oui, c'est le collector.
Ah, ça, c'est correct. On parle pas de la passe de saison.
Non, c'est ça. Ben, en fait, il y a des trucs.
Belles les statues.
Oui, sont jolies, les statues. Sont belles, les statues.
Oui.
Sont très, très belles, les statues.
Bon, ben, monsieur Yann. Andrez-vous, si tu m'écoutes, Denis aimerait beaucoup avoir son Collector's Edition.
Mais Yann. Mais tu ris, mais. Quand on avait visité le studio, puis un moment donné, pendant qu'on avait visité tout ça, c'était les portes ouvertes dans le temps que Stéphane était là. Puis il est arrivé, puis il n'avait comme dans le. Votre genre de garde-robe secret, là, il l'avait. Là. Puis un moment donné, c'est arrivé, puis tu reviendras, je vais t'en donner une, tout ça. Puis finalement, on avait été séparés, tout ça. Puis j'avais parlé de cette histoire-là à Radio Talbot.
Ouais, je me souviens.
Puis dans le temps, M. Net était juste, les studios étaient juste en arrière de Eidos Morales, qui est encore à la même place. Ouais. Là. Et un auditeur de Radio Talbot m'avait envoyé un message, puis qui travaillait chez Eidos, que lui avait eu son Collector's Edition. Puis il dit, je sais que tu as déjà reçu le jeu, mais je sais que tu ne l'as pas eu ça. Puis il dit, si tu veux, rencontre-moi. Tu sais, il y a un Tim Horton ou quelque chose dans le coin. Puis le gars, il.
Tu l'avais donné.
Il m'avait donné. La seule chose qu'il a demandé, c'est une photo, tout ça. C'est que je ne sais pas s'il est encore chez vous, mais encore un gros merci. J'ai trouvé ça super cool. J'ai encore la.
Je suis prêt à prendre une photo, il n'y a aucun problème.
Non, mais j'ai trouvé super correct parce qu'il savait que j'étais un fan de la licence et ainsi de suite. Puis il est dans ma vitrine, là, chez nous. J'ai encore la statue du premier. Il était vraiment
cool. On va voir ce qu'on peut faire pour le nouveau parce que la nouvelle statue est vraiment jolie.
Vraiment belle. Il y a Ben Chausselin qui trouver l'information sur la passe de saison. Si ça vous tente d'aller faire un tour sur Steam, les détails sont tous là. Attends un peu, juste changer la date de ma fête parce que 2016, ça ne passera pas.
Question, moi, comme ça, qui est des fois, c'est positif, des fois, c'est moins négatif. Moi, j'ai trouvé que c'était une mini-tempête dans un verre d'eau, mais je n'avais quand même parlé ici sur le point de vue marketing. Quand vous êtes arrivé avec les précommandes unlock,
c'est quoi ça?
Je sais que c'est pas nécessairement toi qui s'est levé un matin et qui est arrivé avec cette idée-là, mais à l'interne, quand vous voyez ça exploser, comme parce qu'on s'entend que vous avez probablement lu les sites Internet aux États-Unis, qui étaient là, qu'est-ce que c'est ça? Puis vous avez déjà le contenu, mais vous nous faites payer. C'était tout ça. Je me disais, quand on rentre le matin, là, le soir, on se couche, on se lève à 8 heures. Mais tu te lèves pas à 8 heures, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu te lèves le matin, tu arrives au bureau, puis tu as ça. Là. Mm. Souvent, on en parle, des petits scandales comme ça à Radio Talbot, mais c'est vraiment qu'on peut parler à quelqu'un qui le vit comme qui est touché personnellement. Moi, mettons, je regarde une précommande chez B-Games, mais. Il y a des jeux comme ça. Tu commandes sur Amazon, tu as ça, EB Games, c'est ça, Best Buy, c'est ça. Ça, on le voit de plus en plus. Mais vous, c'était vraiment un concept de précommande, de d'unlock. Tu rentres le matin au bureau, puis c'est ton jeu à toi, puis tu vois ça. Tu dis ça comment? Je sais pas si tu as le droit d'en parler ou pas, mais je me dis,
okay, je vais faire un mime. Ici, là, qui... Tu fais, oh boy.
Tu fais quoi pour parler avec ça?
Tu dis des mots doux pour commencer. Puis c'est quoi cette histoire-là? Ce truc-là, en fait, c'était une initiative, si je me rappelle bien, là, je ne veux pas mettre personne dans le trouble, mais c'est une initiative qui avait commencé, je pense, avec le marketing américain, etc. Et les détails, je ne sais pas trop. Mais en fait, l'anecdote drôle avec ça, c'est le matin que c'est sorti, moi, j'en regarde sur Internet et je regarde le produit fini, c'est-à-dire la vidéo qui explique tout ça. Puis j'enlève mes écouteurs quand c'est fini, puis je me lève, puis j'en regarde un de mes collègues, j'ai dit, c'est-tu moi qui étais imbécile ou je comprends rien?
Yann, c'est exactement ce qu'on s'est dit.
C'est ce qu'on avait dit. Je comprends pas. Ils veulent quoi au juste? Là, je vois la moitié du stock, mais il est déjà créé, le stock. Ils nous le donneront jamais. C'était comme
Je vous l'expliquerai bien, mais à ce jour, j'ai toujours pas compris c'était quoi ce truc-là.
Mais ça a été une sage décision d'annuler tout ça. Parce que, bordel, c'était décevant.
Ça a été des bonnes discussions à l'interne, mettons.
Mais je salue l'effort de vouloir créer un nouveau modèle d'affaires puis inspiré de Kickstarter, Indiegogo et toutes ces plateformes-là, mais quand c'est pas brisé, tu le répares pas. Je sais pas, là.
C'est ça. Des fois, je pense que ça arrive à vouloir pousser puis tout le temps faire des trucs nouveaux. C'est ça. Des fois, tu réussis puis des fois, tu te casses la gueule. Je pense que ce qui est important quand tu te casses la gueule, c'est d'apprendre, c'est de pouvoir réagir
rapidement. Et pour le Season Pass, le Season Pass de Deus Ex Mankind regroupe des missions additionnelles et des éléments inédits pour enrichir encore un peu plus l'univers de Deus Ex. Allez, ask for that. Voici son contenu. Deux nouvelles missions, piratage et passé criminel, les packs assaut et tactique incluant des armes et des objets, 4 kits pack 6, 5 000 crédits, 1000 pièces d'armes, 5 packs utilitaires et 20 puces pour Deus Ex Mankind Divided Breach.
L'information est sortie. Voilà,
en passant, qu'on parlait de Reach, je vous conseille de faire le tutoriel au complet parce qu'un coup, vous terminez le tutoriel, ça vous donne un Praxis Kit à utiliser dans le jeu principal.
Ouais.
C'est que ça, c'est cool. Un petit clin d'œil. Au moins, vous regardez si c'est pour vous ou pas. Jouer à ça. Mais au moins, ça vous donne quelque chose de concret pour vous aider dans le jeu.
Exactement.
Là, on dirait qu'on est rendu à près de 1000 personnes, sinon plus. Merci beaucoup, tout le monde, d'être là. On voit que Deus Ex crée quand même un certain buzz sur Twitch et c'est très, très cool. Surtout d'avoir un gars comme toi pour nous en parler, c'est très apprécié. Le temps file, il est 21h40, on a busté notre temps. Ça fly, hein?
Ça fly.
Hey, GF, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Puis avant que tu partes, j'aimerais que tu nous fasses un petit... qu'est-ce que tu penses de tout ce qui arrive avec le e-sports en ce moment? Est-ce que tu penses que ça arrive trop tard au Canada? On est-tu sur la coche? On est-tu là? Comment tu vois ça?
Si on en regarde avec l'Asie, on est un petit peu en retard parce que ça fait longtemps que ça pullule et ça bourgeonne et ça fleurit là-bas. Mais je pense que c'est juste... On s'adapte. Puis peut-être qu'en Amérique du Nord, on n'était peut-être pas rendu là. Puis on y arrive. Puis que ça soit avec des jeux comme les League of Legends ou quoi que ce soit. Dota. Mais éventuellement, même avec les jeux de sport, je pense que c'est pour bientôt qu'on va pouvoir voir nos équipes favorites, mais pilotées par des joueurs professionnels, puis avoir ces ligues-là. Donc, pour moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis ça va, je pense, amener beaucoup, beaucoup de gens vers le jeu vidéo. Que peut-être juste d'emblée comme ça, jouer des jeux solo, ça les intéressera pas. Fait que ça peut être une belle porte aussi d'entrée vers tout ce que le média interactif, etc. Fait que moi, je pense que mieux vaut tard que jamais.
Penses-tu qu'Enos va se diriger, va suivre, emboîter le pas avec un titre éventuellement pour le e-sports? Penses-tu que ça pourrait se faire?
C'est une bonne question. Tout est possible, en fait. S'il y a un marché pour ça, s'il y a de l'intérêt, s'il y a une opportunité, c'est sûr que comme compagnie de divertissement interactif, on ferme jamais de porte sur rien. On regarde toujours qu'est-ce qui se fait, puis s'il y a des trucs qui peuvent faire du sens, pourquoi pas? Puis en même temps aussi, il faut quand même rester honnête dans le sens que on regarde Eidos, le savoir-faire, le portfolio. Il faut aussi être capable de capitaliser sur ce qu'on sait faire, puis pas nécessairement...
juste parce que c'est populaire, exemple.
Juste parce que c'est populaire.
Le e-sport est populaire, on va faire un thief online. Voilà. Ça bat un peu le concept de thief.
Des fois, c'est des fausses bonnes idées.
Mauvais exemple.
Mais des fois, ça peut être des fausses bonnes idées. Puis en fait, c'est ça que la difficulté dans notre domaine, c'est de des fausses bonnes idées, il y en a souvent, et c'est d'y résister le plus possible.
Jeff, merci beaucoup. Le temps de rappeler aux gens que ça vous tente de vous procurer le casque Gold de PS4, là, les espèces d'écouteurs, ils sont en réduction chez Best Buy. Au lieu de 120, ils sont 80$.
C'est bon, c'est cela que j'utilise, moi.
Oui, ils sont 40$ moins chers. C'est jeudi soir seulement dans le cadre des trucs VIP, nous dit notre espion qui travaille sûrement chez Best Buy.
Qui vient de changer le prix dans l'ordinateur. Genre,
effectivement.
Mais comme j'ai vu quelqu'un qui a passé sur ton Twitch, les Geek à Denis ou quelque chose, sur le site, c'est marqué genre que Walmart va faire une vente sur les Disney Infinity genre en fin de semaine. C'est qu'ils disent, si tu veux être sûr de l'avoir, achète-les tout de suite, déballe-les pas. Puis retourne-y, genre, pour faire l'équité, comme le prix équivalent quand tu vas retourner. Comme ça, t'es sûr de l'avoir. J'étais crampé. Je dis, ça, c'est mon style.
Yann, c'est monsieur, je trouve les deals partout. Je sais pas si tu le connais, là, mais il est incroyable. Tu sais quelque chose de pas cher quelque part?
Je vais le trouver.
C'est sûr qu'il
le trouve. C'est une profession en soi, ça. Oui, ça, c'est une expertise.
C'est
comme le Praxis Kit. T'en gardes un en backup. C'est jamais grâce à ça, on en a besoin.
Il y a Soros qui dit, pour finir, attends un petit peu. Soros qui dit, il y a une grande fierté de voir les compagnies de jeux de chez nous réussir. Ben, bravo, félicitations.
Merci beaucoup.
Bon, il y a un peu. Demain, Big. OK. Bon, c'est tous les autres, ils jasent entre eux autres aussi. Mais écoute, ça a été bien le fun d'avoir été là, encore une fois. Puis dès qu'il y a des trucs nouveaux qui sortent, tu es toujours le bienvenu ici. Yann, même chose pour toi. On se retrouve quand, là, la prochaine
fois? Probablement la semaine prochaine. Là, ouais. Si je peux, selon mon horaire de travail, je vais recommencer. Là.
Je rappelle que demain, il n'y a pas de show. Je suis chez Marina parce que, oui, je suis le gars de Marina. Et on va reprendre le show vendredi. On va faire un playtest. On va s'amuser avec le nouveau BF1, le bêta qui est sorti, qui semble très prometteur. Est-ce que les serveurs vont tenir le coup? Peut-être. C'est pas évident, c'est pas facile, c'est un bêta, je vous le rappelle, ça se peut qu'il y ait des bugs. JF, encore une fois, tu salueras toute la gang qui est pas de chez vous, encore une fois, les gangs de fous, que je m'ennuie de vous autres d'ailleurs, on avait eu beaucoup de plaisir.
Vous étiez juste à côté dans le
temps. Ouais, c'était le fun, on allait faire un tour, on descendait là-bas, on parquait les chants, une musique plus, puis on prenait des taxis pour s'en venir. Mais ça, c'est une autre histoire. Salut tout le monde, merci beaucoup d'avoir été là. Encore une fois, je vous rappelle que demain, il n'y a pas de show, mais on se reprend vendredi, puis continuez de contribuer. J'ai tout dit merci à El Padre qui a donné 3$ ce soir. À La Chance 01, 10$ également. À Stable Marrow, qui est redevenu membre pour un 4e mois consécutif. Il y a qui également? Il y a Blitzstick, 19e mois consécutif. Il y en a un paquet. Et tous ceux et celles qui nous ont suivis, que ce soit en nous regardant sur Facebook, sur Hitbox ou encore sur Twitch.tv. Bonne soirée tout le monde. On se retrouve vendredi. Salut. Bye-bye.
Cet espace vide pourrait être le vôtre. Vous désirez faire connaître vos produits ou services? Pourquoi ne pas le louer? Nos tarifs sont très, très abordables. Contactez-nous. radiotalbot@gmail.com